Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Les mecs que je veux ken.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 52e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois le formidable Mourad Winter, humoriste et écrivain, auteur du fabuleux roman L'amour c'est surcoté, disponible partout en librairie, sur internet, la Fnac, Amazon, partout, trouvez-le, achetez-le, c'est une tuerie. J'attendais cet enregistrement avec Mourad avec beaucoup d'impatience, car rares maintenant sont les épisodes où je veux vraiment ken les invités. J'en ai de plus en plus avec des femmes, où le sujet principal est devenu la jalousie, comment la dominer, et aussi pas mal d'invités gays, car beaucoup de potes gays en fait, tout simplement. Et oui, je sais que c'est un peu cliché, la meuf qui se la pète d'avoir plein de potes gays, mais je suis ravie de correspondre à ce cliché. Donc là, on est en plein dans le concept de départ. Rosa, amoureuse de son guest, est surexcitée. J'avais tout préparé pour l'enregistrement, le matos, les micros, la table, recouverte de mon tapis de yoga que je n'utilise jamais et d'une couverture pour amortir le son d'éventuels coups de coude. J'avais préparé des écouteurs en plus de mon casque pour que nous puissions tous deux entendre le retour afin de ne pas nous éloigner trop des micros. J'avais mis à disposition du désinfectant, du gel et 1 kg de framboises, une immense barquette, 1 kg de framboises achetée au marché pour Mourad. Mourad arrive, je clique sur record et là, plus de batterie. Mourad reste zen, j'essaie de, moi, rester zen face à lui, mais dans ma tête, c'est Hiroshima, j'explose, mais c'est pas possible, c'est quoi ce merdier, pourquoi moi? Et en fait, mon zoom est dead, quoi. Donc même là encore, en fait, cette intro, je l'enregistre à l'iPhone, et l'épisode aussi est enregistré à l'iPhone. Voilà, je vais l'amener chez le médecin des zooms. J'ai un ami de mon père qui est un gesson, je vais la porter, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait, il n'y a plus de batterie, enfin, ça marque qu'il n'y a plus de batterie, et j'ai tout essayé, c'est pas un problème de pile, c'est pas un problème de branchement, c'est un problème que mon zoom est mort. J'espère que c'est réparable, parce qu'en fait, à vrai dire, c'est pas mon zoom, c'est le zoom prêté par mon amie Julie Albertine. Donc Julie, si t'entends cet épisode, je vais l'amener chez le médecin, je vais tout faire pour qu'il soit opéré. Et bref, pour revenir à Mourad, on avait posé mon iPhone à équidistance entre nous deux, mais j'avais tellement peur de rater quoi que ce soit de notre discussion que je tenais l'iPhone sous son nez. Et moi, parfois, quand je le mettais sous le mien pour poser mes questions. Et en fait, c'est un ami humoriste, Fred Cham, qui m'a aidé au montage pour que cet épisode soit entendable, quoi. Donc je le remercie du fond du cœur et ça a été une semaine très intense, voilà. Vous avez peut-être écouté l'épisode du podcast avec ma mère. Ma mère a un cancer du sein depuis 1 an, voilà. Et là, en fait, c'est la toute dernière ligne droite de son traitement, la chimio médicamenteuse. On a bientôt fini, mais la chimio médicamenteuse, en fait, ça lui pète les nerfs des pieds et des yeux. Et l'été dernier, je m'étais arrachée sans faire exprès, entre guillemets, docteur Freud, une énorme touffe de cheveux au moment où elle a perdu les siens. Et là, j'ai eu une irritation à l'œil gauche infernale pendant qu'elle aussi avait les yeux rouges. Et donc, on est très connectés. Et elle était là mercredi pour la toute première date de mon spectacle au point virgule, après 7 mois d'arrêt. Donc, très émouvant, quoi. Autant vous dire que j'étais dans un état de stress assez aigu et j'avais beau avoir repris quelques petits plateaux, enfin je flippais de me planter sur 1 heure, quoi, d'oublier mon texte, ou de plus aimer mon texte, de mal le servir. Et je voyais rien en plus sur scène, vu que j'avais pas mis mes lunettes, j'avais pas mes lentilles à cause des yeux. Mais ça s'est très bien passé. Et ma mère aussi, ça va aller. Dans 1 ou 2 semaines, j'ai hâte de vous annoncer que quand tout sera vraiment fini pour de bon. Et en tout cas, elle était là, elle était présente pour moi. Et le public aussi était extraordinaire, quelques auditeurs, auditrices du podcast. On s'est amusés et en fait, ma vie avait du sens d'un coup parce que parfois, je me sens seule et inquiète, dépassée en fait, à côté. Parfois, une impression de peur d'être à côté du milieu du stand-up et c'est dur en fait d'être programmée, de killer sur les plateaux. Mais j'ai eu un portrait dans Télérama par Rosana Di Vincenzo qui m'a fait tellement de bien, tellement ça m'a validée. Et d'un coup, Ben, je me sens plus comme un petit hamster tout seul à suer dans sa roulotte à toute vitesse, mais comme un chat désirable, désiré. Et j'ai envie d'être prise au sérieux et qu'on me respecte. Et autre nouvelle extraordinaire, j'ai été prise comme chroniqueuse dans le nouveau podcast Spotify original Hotline, produit par Nouvelles Écoutes, Julien Neuville. C'est une radio libre, on est une bande de nanas à parler de cul et on reçoit des appels des auditeurs. Vous pouvez nous laisser un message au 07 88 05 64 84. Lâchez-vous, enfin racontez-nous vos joies, vos peurs liées au cul. Et je suis trop contente de me faire de nouvelles copines. J'adore les filles Naya Ali, Elvire Duvel-Charles, de Clit Révolution que vous avez déjà entendu dans mon podcast, épisode 45, Chloé Lemoine, youtubeuse, Clarisse Louise, Laetitia Reboulot, Léa du compte Insta Merci Beaucoup, Manon du compte Le Cunu. En fait, c'est majoritairement des journalistes. Et je suis heureuse, car moi, la plupart de mes potes sont des actrices et humoristes. Donc je suis contente d'avoir de nouvelles copines journalistes. Ça change, c'est intéressant, ça enrichit. Et même si j'adore mes amis humoristes mecs, bon, parfois, ils peuvent être un peu moqueurs. J'ai entendu... Je sais pas si j'étais censée l'entendre, mais j'ai entendu « Ouais, Rosa, la meuf qui regarde du porno avec sa mère, haha. » Et ça m'a fait un peu de peine, c'était pas très bienveillant. Enfin bref, pas de parano. Il y a aussi des mecs en or, comme Mourad. Donc avant de vous laisser dans l'épisode, je remercie Farah et Lindous pour leurs gentils commentaires sur Apple Podcast, ainsi que Natslab pour sa critique adorable de mon spectacle sur Bière et Duc. Ça me touche, ça me donne de la force. Et maintenant, place à l'épisode. Soyez toutes oui pour Mourad Winter. Enregistrement Mourad. Bon, je vais régler le problème avec le zoom. Je suis super en colère. Tu sais, c'est chiant quand c'est la technique parce que t'es pas en colère contre une personne.
Ah ouais, tu peux pas te battre contre.
Ouais, une exactement. Oh, putain. Je vais te lire ton petit poème comme à chaque début d'épisode. Ben oui.
Tu lis des petits poèmes et tout.
Ben bah ouais, c'est le concept du podcast. T'as pas écouté. En fait, à chaque invité. Je lis un petit poème.
Ok.
Mourad Winter, humoriste et écrivain. J'ai connu Mourad sur scène, on a partagé quelques plateaux. Puis j'ai eu l'impression de rencontrer Mourad virtuellement sur Instagram. Ses stories me font mourir de rire. Le podcast de maman. Ça, il le fait parfois, c'est juste quand il a plus l'attention. Tu vas te calmer, Minou, et tout va rentrer dans l'ordre. Ces stories me font mourir de rire. Je te le dis, Mourad, je me retiens de ne pas réagir aux trois quarts d'entre elles par le smiley qui pleure de rire, par peur de passer pour une stalkeuse. Mourad fait un rappel des tweets en story Insta où il commente l'actualité politique française et internationale. J'ai d'ailleurs souvent fait des stories pour inciter mes followers à suivre Mourad, le seul à faire des stories drôles sur le conflit israélo-palestinien, par exemple. C'est pour vous dire le level. Et donc, quand j'ai acheté le livre de Mourad, « L'amour, c'est surcoté » aux éditions Robert Laffont, j'avais une appréhension. Allais-je retrouver la plume de l'auteur instagrammeur que je suis quotidiennement, dont la bulle s'affiche en premier? Et là, magie, coup de foudre littéraire, je suis effondrée de rire à chaque page, littéralement, toutes les trois lignes, j'ai envie de commenter en envoyant des smileys, je les dessine au crayon sur mon livre tellement j'ai besoin de réagir, de signifier à quel point je suis fan. Je récupère le livre le jeudi 3 juin au Darty Nation et commence le roman de Mourad. C'est l'histoire d'amour sous forme de série en plusieurs saisons, de Wourad, l'alter ego de Mourad, et Imen, une jeune femme drôle et attachante, pleine de surprises. Les lieux et scènes étant mentionnés au début de chapitre comme sur un scénario de cinéma, type séquence 2, épisode 10, intérieur jour, chambre de Wourad, 11h42. Le récit commence par la quête de Wourad de cul. Il veut Ken, Ken, Ken. Il mate des boules sur Insta, se prend des F en boîte et a très faim. Mais sa rencontre avec Imen vient tout chambouler et notre héros développe des sentiments bien malgré lui. Exactement. Je suis scotchée au bouquin, sauf que ça tombe 6 jours avant la reprise de mon spectacle au point virgule, le démarrage du podcast Spotify Original Hotline et la fin de l'écriture de mon propre livre. Voilà l'unique raison pour laquelle je n'en suis qu'à la page 109, sinon j'aurais littéralement gobé le livre entier et tout cet épisode n'aurait été qu'un immense spoil. Donc c'est mieux que je ne l'ai pas terminé, comme ça, ça donnera envie aux auditeurs et auditrices de te lire et moi je suis trop heureuse après les stories et les pages, de te revoir en vrai, Mourad. Merci infiniment d'avoir accepté de venir dans mon podcast. Première question, obligée, l'amour, est-ce que c'est surcoté?
Mais non, je sais pas. Non, ça c'était la tentative d'approche, on va dire.
Ouais.
C'était dire j'avais envie de... Parce que je savais très bien que pour un premier bouquin en rayon, j'allais pas être... super mise en valeur, ce qui est normal. Et du coup, je me suis dit, il faut dire quelque chose que personne ne pense réellement et prouver le contraire.
Donc, c'est clair. Et j'ai vu que c'était pas le titre initial, le titre l'a changé.
Non, c'était pas ça. Ouais, ça a changé. Il y en a eu trop des titres.
Ah ouais,
au tout début, c'était 30 jours pour la ken.
30 jours pour la ken.
Ouais. Il y avait une promesse. Il y avait un truc.
Ah, j'aime bien 30 jours pour la ken. Mais je suis contente que t'aies pas choisi ce titre parce que ça, t'as plus ou moins... il y a ken dans le titre de mon livre. Donc, résultat.
C'est ça. Parce qu'en fait, c'était une... moi, j'avais mis sur Instagram. J'avais commencé là, il y a 2 ans.
Ouais.
Et puis j'en avais fait une vingtaine. Après, j'avais arrêté. Et j'ai repris l'année dernière, mais ouais, c'était ça le titre. C'était 30 jours pour la canne au début, et ils étaient grave chauds à fond. Mais vraiment, premier rendez-vous, ils me disent ça va être compliqué. Ensuite, au bout de 2-3 mois, ils me disent non, on a bien réfléchi, on est tous chauds pour le tenter le coup, on s'en bat les couilles.
Ouais.
Et puis un jour, en réu avec la fond Canada, ils se sont rendus compte que c'était compliqué parce qu'au Canada, Ken, ils comprenaient pas.
Ah, c'est ouf.
Ils comprenaient pas au Canada, et les Canadiens.
Ils ont pas Ken.
Bah
ils
non,
pas le mot
Ken, c'est, pour eux, c'est...
C'est Barbie c'est et Ken.
Loin.
Ah ouais, c'est trop loin, Ken. Ouais. Ouais, c'est marrant, ça pose des questions. Bah, c'est exactement les mêmes questions. Ouais.
Bah, tu vois, c'est ça. Ouais. Et par rapport à... Comme moi, le but, en plus, c'est vraiment de toucher...
Un max.
Bah ouais, un max. Et puis, c'est bien d'essayer de toucher en France. Mais quand t'es chez La Fonte, tu te dis, je vais quand même essayer d'aller à fond dans la...
Dans l'international.
Dans la francophonie, à mort, quoi.
Par contre, ça va être compliqué de le traduire, ce livre, en même temps.
Très compliqué.
Parce qu'il y a tellement de jeux de mots, de jeux sur le langage, de ref, de verlan.
Très compliqué.
Ah ouais. Mais bon, en même temps, ça veut dire qu'il faudrait prendre des putains de traducteurs qui mettent le mais qui...
Ouais, par exemple, un mec qui si je le traduis en anglais, il me faut un anglais qui a l'argot...
C'est ça.
L'argot anglais, l'argot américain, qui...
C'est ça.
Vraiment... Et puis, il y a des jeux de mots, il y a des...
Tout le temps.
Donc je me suis vraiment pris la tête,
ouais.
Et du coup c'est vrai que c'est dur à traduire, c'est super dur.
Ouais.
Par contre après à adapter en film, en pièce de théâtre, ça c'est autre chose.
Bah c'est ça, mais en fait moi je me suis dit évidemment que ça peut totalement faire un film ou une série ou une pièce de théâtre, c'est vrai à vrai dire, en fait ça peut être adapté.
Voilà, il y a plein d'options depuis, j'ai sorti jeudi, on est jeudi.
C'est sorti jeudi dernier, le 3.
Jeudi dernier, et depuis j'ai eu... Je te dis, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Parce que
c'est génial.
J'ai là les propositions.
C'est mérité.
C'est à moi de choisir après maintenant.
Wow.
Vraiment, j'ai pas envie de faire un truc juste pour l'oseille.
Ouais.
Tu sais, me dire, je vais faire un film, on va me donner tant, et je le fais, et je laisse le bébé à quelqu'un d'autre.
Bah non, là, c'est ton bébé, ton bébé.
Je suis encore dans la réflexion. J'ai vraiment une hype, il y a un truc qui me chauffe, c'est la pièce de théâtre.
Ouais.
Ça me chauffe.
Mais grave.
En fait, c'est vraiment plus dans la lignée de ce que j'ai envie de faire, parce que maintenant, je me suis découvert là romancier vraiment.
Bah ouais.
La vie de ma mère, je savais pas. Hein.
Je savais pas
que je savais faire ça.
Ok, et je veux tout savoir depuis le début. C'est-à-dire que c'est ton premier roman.
Ouais.
Et en fait, ça a donc démarré sur Instagram.
Ouais. Alors en fait, sur Instagram, je trouvais qu'il y avait pas de... Je me faisais chier et il n'y avait que des trucs... Enfin, j'étais trop dans l'humour et du coup, je voulais écrire une histoire d'un mec, d'un peu un détraqué sexuel, mais un peu comme tous les gars, tu vois.
Oui, oui.
Je voulais parler d'un mec...
Il n'est pas spécialement détraqué sexuel.
Non, tu vois au fur et à mesure qu'en fait, c'est un mec, c'est tout
ça. Ouais, c'est juste un mec qui veut Ken.
100% des gars, quoi.
Même, il se retient longtemps, finalement,
de
Ken.
Voilà, quoi, tu vois, t'es dans sa tête, t'es dans la tête des mecs, c'est comme ça.
Oui, oui.
Faut pas mytho, genre non, les mecs, ils pensent...
Mais bien sûr.
Ils pensent qu'à Ken.
Mais en plus, on le sait. Enfin, tu vois, faut être vraiment très naïf pour...
C'est unanime, on fait semblant, mais non,
oui.
Tu le sais.
Et en même temps, il y a un truc qui est partagé par les mecs et les meufs, c'est cette espèce de stratégie de séduction, tout le moment où, en effet, sur les textos avec Imen, où il fait le mec désirable, etc.
Exactement, mais ce truc-là de la meuf, elle t'envoie un message, tu réponds que 20 minutes après, exprès, pour faire genre. Tous ces trucs-là, ces conneries, en fait, ça me faisait triper de les mettre un peu à l'écrit, parce que déjà, je le vis plus, ça. Moi, je suis marié depuis 7 ans.
Putain.
Donc, tu vois, moi, tout ça, là, je sais plus.
Ah, tu t'es replongé dans tes souvenirs.
Bah, en fait, j'ai dû aller loin. Et comme je dis, c'est moi à 20 ans, ce gars-là.
Ouais.
Tu vois, cette dalle, c'est la dalle que j'avais à 20 piges. Donc, c'est pour ça que je le dis. Et j'espère que ma femme écoutera le podcast. C'est pas moi, ce gars-là. Parce que quand elle l'a lu, elle m'a dit, ouais, les trucs, c'est proche, quand même. Hein.
J'aime bien comment le podcast est genre...
C'est une thérapie.
Ouais, grave. Ou genre, limite, un truc pour les avocats.
Non, mais c'est ça. Je suis obligé de faire attention parce que... enfin bah voilà, par rapport à elle, par ouais. respect. Et puis parce que c'est un personnage à cette époque-là, à cet âge-là.
Ouais.
Bon, lui là dans le bouquin, il a 27 ans, tu vois, mais je veux dire c'est moi à 20 ans, vraiment.
Et déjà au moment où tu as commencé à poster les petits épisodes sur Instagram, donc t'as fait ça au départ juste pour t'amuser ou ouais. avec le but d'écrire un livre?
Ah, mais
déjà
pas du tout. Okay. Vraiment, moi c'était pour m'amuser. Je voulais faire, je m'étais mis, en gros, moi ce que je fais beaucoup sur les réseaux, j'utilise les réseaux pour m'entraîner.
Pour la scène.
Pour la scène et puis pour l'écriture. Moi à la base ouais. je suis auteur, tu vois.
Ok. Donc,
moi j'ai toujours été dans l'écriture et pour m'entraîner, le rappel des tweets par exemple, je prends des tweets et après je mets une punchline. C'est un entraînement quotidien que je mets ok à la vue de tous, mais c'est un entraînement quotidien.
Mmh.
Et du coup quand je me suis mis là-dedans, j'avais mis ouais voilà 30 jours pour la ken. Pendant 30 jours, je vous mets un épisode et du coup, au bout de 10 jours, 10 épisodes, je vois la page, je suis plus de 1500, 3000 personnes, je sais pas, ça prend bien.
Mm-mm.
Je vois des potes qui se screenent les trucs, qui s'envoient et je me dis, il y a un truc à faire.
Ouais.
Et donc, je bloque. Après, j'ai eu beaucoup de boulot en télé, tout ça, du coup, j'avais plus le temps.
Parce que okay.
ça prend quand même. C'est rapide à écrire, même en même temps. Il y a des jeux de mots, des trucs, j'essaye de...
Ah non, c'est super bien écrit, tu ouais. vois que l'écriture elle est hyper léchée, c'est pas le... Non, c'est pas...
Du coup j'ai un peu mis de côté, et puis il y a le confinement.
Okay.
Pendant le confinement, j'ai voulu me relancer dedans.
Ouais.
Et j'ai mon agent qui connaît assez bien Philippe Geluck.
Ok.
Le chat, tu vois, les BD.
Ok, ouais, d'accord.
Qui le connaît assez bien et qui lui a envoyé.
Ok.
Et il n'y avait aucune intention au début d'en faire un bouquin. Et surtout pas, elle me disait, enfin mon agent me dit, ouais, ça serait peut-être bien d'en faire une BD. Et moi je disais, c'est mort une BD.
Une BD, t'avais pas envie?
Non, parce que ça va figer l'image.
Ok.
Et ce que je veux faire dans l'écriture, dans mon écriture, ce que ouais. je veux, c'est que les images, elles se créent par les mots.
Mmh.
Du coup, chacun ait son interprétation de,
ouais.
bah, je sais pas, de l'appartement, de la meuf, de tout.
Grave.
Tout le monde doit avoir son interprétation et je voulais pas rentrer là-dedans. Et du coup, j'étais rassuré parce que Geluck me dit, il rappelle au bout de 2 jours, même pas, et il dit, c'est magnifique. C'est vraiment... Et franchement, j'avais envoyé vraiment 30 pages, quoi.
Incroyable.
Pas plus. Il dit, c'est magnifique. Par contre, oubliez la BD. Ça m'a rassuré.
Ouais.
Il dit, mais il faut en faire un bouquin. Et là, je me dis, bon, ça devient sérieux. Parce que j'y croyais pas, tu vois. Tu sais, tu te dis...
Mais c'est génial. Mais attends, on n'avait pas eu une discussion déjà au Paname où moi, je t'avais dit, t'es sûr de vouloir mettre tout ça sur Instagram? Protège-le.
Ouais, ouais,
on en avait parlé.
Et après, j'avais même déposé un petit peu.
Déposé
ouais,
les
j'avais
textes.
Déposé des trucs et tout, parce que je me suis dit... Forcément, il va y avoir ouais. quelqu'un qui
bah,
va
récupérer. Bah ouais, faut faire gaffe. Non, en même temps, c'est tellement personnel que, ouais,
et puis,
il y a un
et
style.
Puis, franchement, qu'on me vole.
Ouais.
C'est... Je te jure, donc, tu...
Allez-y.
Prenez les vannes.
Ouais.
Je m'en fous. Parce que derrière chaque vanne,
ah,
il y en
là,
a.
Là, c'est sûr qu'il y en a de toute façon qui vont t'en prendre. Parce que le livre, c'est collecteur,
bah,
quoi.
Ouais,
c'est toutes
plein,
les trois phrases.
Le truc, c'est que ça va être
ouais.
bête parce que.
Ouais.
Bah parce qu'il est en train de bien prendre.
Ouais.
Le problème, c'est que.
Elles seront connues rapidement.
Si il cartonne, là, ça marche vraiment bien.
Ouais,
si,
mais oui.
Si le bouquin cartonne vraiment, bah, il suffit que quelqu'un utilise une des vannes et la joue.
Et il sera grillé.
Il sera cramé.
En plus, c'est par écrit, c'est déposé. C'est beaucoup plus protégé un texte écrit
ouais,
qu'une
voilà,
blague
que,
sur scène.
Que
bah
sur
ouais.
scène. Parce qu'en plus, voilà, c'est par écrit, c'est la fond.
Bah ouais.
Enfin, là, faut pas jouer au con, quoi. Donc,
grave.
Mais que les gens prennent, je m'en fous.
Et donc, il y a le mec du chat qui te valide de ouf.
Ouais,
donc, le premier step.
Voilà, c'est ça. Et du coup, il demande d'envoyer mon bouquin à des maisons d'édition.
Ok.
Enfin, mon bouquin, mon manuscrit, il y a 30 pages.
Ouais, ouais.
Il envoie, c'est pendant l'été dernier, moi je pars en vacances, j'ai des rendez-vous début septembre, et là je rencontre un soir un pote qui a déjà écrit un bouquin, et qui me présente une nana qui s'appelle Elisabeth Samama, et qui du coup, à ce moment-là, elle adore, pareil, 30 pages, elle adore, et elle me présente à plusieurs maisons d'édition. Et au début c'était chez Plon, au début je devais signer.
Ouais, ok.
Ça devait être chez Plon, et puis finalement c'est la même maison, Plon, Lafon, c'est le même groupe.
Ah, ok.
Et finalement la patronne de Plon passe chez Lafon et il me propose de les suivre. Et je dis vas-y.
Non mais c'est énorme, c'est-à-dire que genre d'un coup tu passes de ah c'est un truc pour m'éclater sur Insta à en fait je suis édité chez l'une des plus grosses
ouais.
maisons françaises.
Ah,
quoi.
Mais ça allait à 2000 à l'heure.
Ouais, genre l'ascenseur, ça t'as pas eu un haut.
Tombé.
Ouais.
En fait au début. C'est pas j'y croyais pas, parce que ça fait un moment que j'écris
ouais.
et je suis conscient... Enfin, tu sais, quand tu... Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, trucs comme ça. Mais j'ai les bons abonnés. Dans le sens, j'ai les professionnels. Et tout le monde est unanime pour dire « Ouais, il est chaud, Mourad, il est chaud. » Donc, mine de rien, avec les années, tu te dis « Bah, en fait, j'ai quand même un petit niveau.
Ouais. »
Et faut pas... moi, je pars du principe... Vraiment, faut pas se dire « Ah non, je suis pas capable, je suis pas ci, je suis pas ça. » Moi, je savais pas que je savais écrire. maintenant j'écris un bouquin, maintenant je sais que je sais faire ça. Tu vois ?
Et t'étais auteur, en fait, parce que moi, je te connaissais en tant qu'humoriste, mais je te connaissais de loin, genre juste de plateau comme ça, le dimanche à 14h. J'avais vu ta fille, trop chou, mais je savais pas que t'étais donc aussi auteur à la base pour la télé ?
Ouais, carrément. Okay. Moi, en fait, à la base des bases, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. J'ai bossé en télé. Enfin, avant, il y a 10 ans, j'ai travaillé au Paname, en tant que dans la restauration. Et là, Karim du Paname me dit, faut absolument que tu montes sur scène. Et moi, frousse, parce qu'en fait, il voit les conneries que je mettais à l'époque sur Facebook, il me dit, faut vraiment que tu fasses quelque chose et tout. Il essaye de me mettre dedans, et puis moi, je suis pas trop chaud, tu vois, je sais pas, je me sentais pas légitime, du coup, mais j'ai toujours écrit, mais je me sentais pas légitime de vivre de ça, de réclamer de l'oseille sur de l'humour, parce que pour moi, c'était pas un travail. Tu vois, je voyais pas ça comme
et tu faisais quoi comme travail? Pardon, à chaque fois, genre, je refais marche arrière.
Responsable du Paname.
Responsable du Paname.
J'étais responsable.
Mais t'avais fait quoi comme études?
Mais j'ai jamais rien fait, moi.
T'as pas fait d'études?
J'ai rien fait.
Après le bac, t'as fait quoi?
J'ai loupé le bac, je me suis barré en Angleterre, j'ai joué au foot là-bas, j'étais dans un resto, je suis revenu ici, j'ai ouvert un restaurant, j'ai fait plein. Enfin, j'ai fait un peu de tout, quoi. J'ai fait VTC.
Dingue, dingue.
J'ai jamais écrit, enfin, j'ai jamais travaillé en français, j'étais une merde en littérature, laisse tomber, j'ai loupé le bac. Non, parcours catastrophique.
Attends, tu devais forcément être bon en français.
Non, je te jure, j'étais mauvais. Parce qu'en fait, ça ne m'intéressait pas. Et moi, j'avais ce truc, quand quelque chose m'intéresse, ben, j'étais bon. Et j'avais, je ne sais plus, en biologie, je devais avoir des 19,5, 20 de moyenne, parce que ça m'intéressait. Et parce qu'il y avait je sais pas, c'est comme les maths, il y avait un truc...
Concret.
Ouais, concret, il y avait aussi... pas une compète, mais tu savais... Enfin, je voyais ça de manière... C'était assez facile, alors que la littérature, les dissertations, tout ça, il y avait... En fait, il y avait trop de possibilités.
Mmh.
Et du coup, comme il y avait trop de possibilités, j'arrivais pas à me canaliser, j'arrivais pas à canaliser ma créativité, mon énergie. Et du coup, ça partait dans tous les sens.
Et il n'y a jamais eu un prof de français qui t'a dit « Attendez, Mourad, vous avez du potentiel, écrivez, t'es pas tombé sur ce prof-là ».
Non, je suis pas tombé. Franchement, où est-ce qu'on a grandi, ils n'avaient pas le temps, on était tellement des cassos. Je les comprends, les profs aussi. C'est compliqué de voir le potentiel d'un gamin qui vient en cours et qui reste au fond, qui s'en bat les couilles. Comment tu veux... Tu vois ce que je veux dire? Comment tu veux déceler quelque chose chez lui si déjà il ne fait aucun effort? Et moi, je le sais qu'en cours, je faisais aucun effort. Et maintenant, d'un côté, je regrette, mais d'un côté, je me dis, c'est peut-être ça qui m'a permis d'avoir ma plume,
de ne
pas vouloir faire du. Parce qu'il y a beaucoup de... Moi, je lis beaucoup de contemporains, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de mecs qui essayent de faire du Houellebecq, de mecs qui essayent de faire du Céline.
Et c'est chiant.
Bah, en fait, tu vois directement dans l'écriture que le mec, c'est pas il triche, mais... c'est du plagiat pour moi.
En fait, il y en a beaucoup pour moi qui manquent de personnalité. C'est-à-dire, il y a aussi... ils se cachent beaucoup sous la troisième personne, certains, pour faire de la littérature, en gros. Et c'est ça que toi, tu fais... Et à aucun moment, il n'y a aucune... Enfin, je sais pas, tu nous parles directement, quoi.
Moi, c'est ma façon d'écrire. J'aime bien être... je parle comme si c'était une discussion entre deux potes. Vraiment, je trouve que ça touche, que ça intéresse, et qu'en même temps... On a une concurrence incroyable. Les romans ont une concurrence incroyable qui s'appelle Internet, qui s'appelle Netflix, qui s'appelle les séries, qui s'appelle tout ça, où on te met du rythme dès le début. T'as TikTok maintenant, la capacité d'un être humain... j'ai vu récemment, il y a une étude qui est sortie, la capacité d'un millennials, c'est aller de 8 secondes de concentration.
Putain, donc, wow.
T'imagines le truc, ça veut dire que dès le début, maintenant les gens, faut les choper.
Et le problème, 8 secondes, c'est-à-dire que t'imagines même le reel, c'est trop long, quoi. 15 secondes, c'est trop long.
Ah non, ça va, ils étaient encore dans mes comptes, c'est 6 secondes. Mais tu vois à quel point l'être humain... Maintenant, c'est vraiment... On est dans la TikTokisation de la société. Tout doit être vite, tout doit être rapide, doit avoir du contenu, il faut que ça enchaîne. Et là, moi, quand je lis des contemporains, bah, je me fais chier, en fait.
Voilà.
Et je suis conscient de faire partie un peu de cette génération, du zapping, du faut faire vite. Quelque chose ne m'intéresse pas, je fais un épisode, allez, salut, ça change. Et je suis pas fier de ça, tu vois. J'estime qu'il faut me donner du temps aux œuvres pour qu'elles deviennent vraiment des œuvres d'art. Mais le problème maintenant, c'est qu'on a plus le temps.
Ouais.
Il y a trop de contenu, il y a trop de films, il y a trop de séries, il y a trop de plateformes. T'imagines le nombre de plateformes.
Ouais, sauf que toi, tu nous accroches direct et que résultat, en fait, il y a quand même rien de meilleur que d'être dans un livre parce que c'est quand même vachement plus profond. Je veux dire, le truc que tu vois sur YouTube, tu l'oublies. Alors que là, ensuite, quand t'es dans le bouquin, il y a un truc quand même assez fort qui se passe. Quand t'accroches, c'est ouf, quoi.
J'ai eu... justement, moi, en ce moment, je reçois beaucoup de messages de personnes qui lisent pas. et qui me dit, c'est la première fois que vraiment je me mets sur un bouquin, je l'ai pas lâché, je l'ai fini en un jour, en deux jours. Et je crois que je vais pas dire c'est ma plus grande fierté, mais avoir des... Moi, j'ai des potes, vraiment des Kaira, mais des putains de Kaira qui l'ont lu et qui m'ont dit, c'est quand la suite ? Juste ça.
C'est trop chaud.
Mais moi, juste ça, c'est bon. Je suis heureux. Moi, ça y est, j'ai fait mon taf. Essayer de faire en sorte que des mecs qui lisent jamais se mettent à lire et derrière m'envoient un message. Les gars, je les connais, m'envoient des messages, ils me disent, frérot, voilà, c'est une bombe. Tu vois, rien que ça, je me dis, putain, pour moi, c'est le plus beau des mecs.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Merci, c'est ça, quoi.
Ouais, voilà. C'est génial. Et donc, en fait, donc, tu passes de gérant du Paname, Karim qui te décèle un talent, à tout d'un coup, en fait, t'as quel âge, tu fais ta première scène, ça commence comme ça ?
Non, je bosse en télé. Ouais, je bosse en télé vers, je crois, j'avais 26... Ouais, 28 ans, un truc comme ça. Je commence à bosser en télé en tant qu'auteur. J'ai fait 4 ans à Touche pas mon poste. J'ai bossé là, après je suis parti chez TF1, W9, enfin j'ai un peu bourlingué. Et en 2000...
Touche pas à mon poste, c'est Hanouna, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Ok, c'est là que tu as développé le côté un peu sniper, vanneur.
Alors là, j'ai plus développé, on va dire, le traitement d'image.
Okay.
Comment trouver sur une image qui n'est pas forcément drôle, du drôle, et derrière aussi de la parodie, comment essayer de mettre des incrustes, enfin... Prendre une image pas drôle, c'est con, hein, mais par exemple, l'image, je parle d'actu, la gifle de Macron,
ouais.
Quand je l'ai vue, j'ai fait, ouf, ça, pépite, t'as 1000 vannes avec ça.
Ouais.
Tu vois, et c'était ça un peu mon taf, j'étais en rédaction image. Après, j'ai bossé avec Camille Combal, j'ai bossé un peu avec tout le monde, j'ai bossé sur des chroniques.
J'espère qu'ils vont te rappeler là pour parler de ton livre dans leurs émissions quand même, ils vont te faire de la pub, j'espère.
Un problème, c'est que là, c'est la dernière, là, c'est fin de saison. Moi, je me suis niqué là-dessus.
Ah, putain.
Je me suis niqué là-dessus. Bah, en fait, le livre devait sortir en mai, donc il allait avoir une promo télé, tout ça.
Ouais.
Mais là, comme il est sorti en juin, le temps de tout ça, là, c'était mort. Il y avait déjà de la progra et tout, c'était compliqué. Mais j'ai eu beaucoup de retours pour, peut-être pour septembre. Je pense plus pour septembre.
Okay.
Et puis, de toute façon, moi, ça m'arrange parce que je pense vraiment qu'avec le bouche à oreille, il risque de marcher cet été.
Oui.
Et moi, mon but, vraiment, c'est que le bouquin, il soit sur les plages, quoi.
Ah bah, c'est le livre de l'été, quoi.
C'est ça,
grave.
Que je veux, moi, c'est vraiment de la presse. C'est vraiment de la presse qu'il me faut.
Ouais, c'est
et
clair.
Donc là, j'ai déjà 4-5 presses. On va
trop
voir
bien.
Ce qui arrive, quoi. Ça va sortir courant juillet, non, je suis content. Non,
c'est cool, génial.
Franchement, c'est cool.
Et donc, en fait, tu fais ces émissions télé, puis en fait, tu passes un peu sur scène, et en tant qu'humoriste, quand tu fais tes premiers passages plateau, tu prends du plaisir de... Parce que ton personnage principal, Ourad, il est comédien. C'est ça, le mytho de départ.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, sur le début, je commence à écrire avec des stand-uppers. J'écris. Et un jour, j'ai mon fils. Pour mes 30 ans, j'ai eu mon fils. Et là, je me dis, il y a un truc qui me dit, oulala, il y a les responsabilités qui arrivent. Et je sais pas, il y a un truc de branleur que je fais, c'est le moment de faire de la merde. Du coup, fais de la scène. Et je sais pas pourquoi. Mais moi, de toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Je me mets en difficulté tout seul pour voir est-ce que je vais réussir à surmonter les choses. Et là, je me dis, ouais, c'est le moment d'avoir une vie de troubadour. Ok, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas, mets-toi en difficulté, arrête la télé, fais que du stand-up. J'en parle à ma femme, elle me suit, elle me dit vas-y. Et on fait le bilan dans 2-3 ans, on a un peu d'oseille de teco. Si ça va pas, on grattera dans les économies, c'est pas grave. Et du coup, je me lance, je fais du stand-up. Au début, très, très facile au début, parce que je monte sur scène, j'ai mes textes et tout, c'est vraiment, je sens les choses, et puis après, au début, tu te dis, ça va aller très vite. Et au bout d'un mois, deux mois, trois mois, là, tu y a les difficultés, il y a le doute qui arrive, et quand il y a le doute, après, c'est la merde.
Ouais.
Donc pendant un an, on va dire, pendant un an et demi, des hauts, des bas, des hauts, des bas, je continue, j'arrête. Et puis après, 6 mois avant Covid, je crois que c'était l'été 2019. Été 2019, ça commence à bien prendre. Je commence à faire des grosses premières parties. Janvier, février, je joue mon spectacle 2020.
Ok, t'avais déjà écrit une heure.
Ah ouais.
Ouais.
Ah mais les une heure, je les ai franchement...
Enfin, très vite.
Je suis parti à un moment donné, c'était en 2019, je suis parti 3 semaines à Montréal. J'ai écrit comme un porc, j'ai joué, écrit. Je suis revenu avec mon spectacle et je l'ai enchaîné.
Parce que moi, je me souviens, mais des plateaux, c'était surtout des blagues d'actu. T'adressais déjà les sujets de l'amour et de la sexualité sur scène? Non, pas vraiment.
Non, pas trop. Ouais. Non, pas trop, pas du tout. En gros, si, parce que mon spectacle, ça parle du mariage.
Okay.
Tu vois, c'est un peu la ligne directrice, c'est le mariage. Et le spectacle s'appelle Fin du monde, parce qu'en gros... Bah, je pars du principe que le mariage, c'est la fin d'un monde. Je dis pas que c'est la fin du monde, mais c'était la fin d'un monde de célibataires et le nouveau monde qui est la vie d'homme marié. Et puis en même temps, je voulais parler de... quand je parle de fin du monde, c'est un peu... et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, moi, là-dessus. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. Tu sens que les gens, ils parlent de... comment ils appellent ça, guerre de civilisation, ouais. Tout ça. Mais il n'y a pas de ça. Moi, je pense que c'est pas ça. Enfin, c'est mon avis. Hein. Mmh. Moi, je pense plus que c'est une guerre de génération.
Mmh.
C'est, t'as des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, qui possèdent tout et qui voient d'autres gamins qui leur ressemblent pas et qui se disent bah ouais, mais moi, c'est mon monde, il était comme ça avant, je veux pas de ce monde. Mmh. Et les jeunes, comme nous, on comprend pas le mâle blanc hétéro cisgenre de CNews, on ne comprend pas. Mais lui aussi, mine de rien, il défend son steak.
Mmh.
En fait, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'actu là-dessus.
Ouais.
Je parle aussi des arrière-grands-parents, du fait qu'ils ne comprennent pas qui on est. Ils sont complètement...
C'est marrant parce que sur Instagram, tu... Marlène Schiappa, elle prend cher. Tu te fous souvent de sa gueule.
Ouais.
Mais par contre, ton livre est quand même... genre super féministe. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Alors, c'est pas... au final, les personnages et tout, il n'y a pas de... Même si, l'attirance sexuelle, il n'y a jamais de discrédit. Enfin, c'est toujours... ils se laissent toujours charmer par la personnalité. Puis même, il n'y a pas un truc où c'est genre... c'est pas genre... C'est un objet... c'est juste... Bah, je suis attirée par elle physique. Ça change... Je ne sais pas comment dire. Il y a un truc très bienveillant de base. Et même tout le passage, il y a un petit passage où le pote... c'est tellement drôle. Je ne sais pas si je peux m'y spoiler. Mais genre un mec qui essaye de faire... de séduire une nana, et pour la séduire, il lui fait croire qu'il a fait de la tôle. Et c'est très marrant, parce que c'est genre le pote débile, c'est cette espèce de... Enfin, genre de personnage archaïque, shakespearien, qui marche très bien. Et donc ton personnage dit « Ah ouais, mais tu lui as dit quoi ?» Et il dit genre « Harcèlement sexuel !» Le pire truc que tu puisses dire à une meuf. Et c'est tellement drôle, et pour moi, c'était la... Enfin, je sais pas comment dire, c'était presque la meilleure manière d'aborder le sujet, parce que, résultat, tu te tapes des barres en lisant, et en même temps, il n'y a aucun doute par rapport aux intentions de l'auteur qui, genre, trouve qu'en vrai, c'est l'un des trucs les plus chauds que tu puisses faire aujourd'hui, quoi.
Mais bien sûr, mais parce que... mais si on est des... Je pense que c'est... C'est pour ça que je te dis, fin du monde, il y a une nouvelle génération. Nous, on a grandi, on a vécu tous ensemble. La mixité, c'est dans nos gènes. Du coup, n'importe quel mec, actuellement de notre génération et les plus jeunes, il voit un mec mal parler de meuf, ça va le choquer.
Mmh.
Parce que pour nous, c'est inconcevable, tu vois. Donc moi, dans le bouquin, j'ai vraiment envie que tous mes personnages aient raison.
Ouais, ouais.
J'aime pas le concept d'antagoniste. Du méchant, de tout ça, j'aime pas ça. Parce que, après, c'est mon côté, je me prends un peu pour un bisounours, mais je pense que les gens, ils sont gentils, tu vois, dans la vie. Les gens, ils ont pas de mauvaises intentions, c'est la vie dans laquelle ils sont, enfin, c'est toute cette société qui te pousse à faire que du pognon et du coup à ne pas avoir de comment dire, je vais pas dire de spiritualité, mais
d'âme.
La vie de ma mère, c'est ça. Les gens, il y en a plein, ils ont pas d'âme, et tu discutes un peu avec.
Mm.
Je te jure, tu te rends compte que le gars, en fait, c'est juste une victime de la société, quoi.
Ouais.
Et c'est pour ça que moi, dans le bouquin, je voulais que des personnages qui sont baisés dans leur tête, mais qui ont raison dans leur façon d'être baisés, parce qu'ils ont vécu ça, parce que voilà, c'est pas. Fin...
Et ta femme, quand tu commences sur Instagram à raconter 30 jours pour la Ken, quand tu commences cette idée, comment elle réagit? Elle est OP ou...
Ouais, mais ma femme, elle a toujours compris que c'était mon
des
personnage.
Blagues, ouais.
Ouais, c'est de la vanne. Elle sait que voilà, je suis clean, il y a pas de.
Ouais, ouais. Bah, au moins, c'est dehors, capté. C'est dit, quoi.
Ouais, elle a capté. Ouais. Elle a capté, et du coup, et elle est très, très drôle. Ouais. Vraiment, elle est très, très drôle. Et du coup, bah, des fois, elle va me dire, ah, ça, c'est, celle-là, elle est violente, tu vois, mais sinon, ça va, quoi.
Et ta mère est drôle aussi? Parce que dans le livre, ta mère est très, marrante, quoi.
Ouais. Ma mère, elle est assez speed. elle dit très peu de choses, mais elle est assez drôle. C'est plus mon père. Mon père est extrêmement marrant.
Ah, ok.
Ouais, mon père est vraiment, c'est un personnage, et dans le 2, parce que je suis en train d'écrire la suite. Spoil.
Okay. Génial.
Oh, spoil.
Ouais. Teasing.
Dans le 2, c'est un personnage qui est très important.
Ok.
C'est un personnage central du deuxième bouquin.
Et justement, tes parents, à la lecture du bouquin, t'avais pas peur, vu que ça parle de, tu vois, genre, enfin, tu vois, ça décrit ce que ressent le personnage quand il mate les fesses de la meuf, tout, tu disais, ça t'a pas, tu t'es pas, t'as pas eu, t'as pas flippé que tes parents lisent ça, ou ta famille, ou des journaux, rien à foutre.
En fait, j'ai pas du tout, j'ai pas réalisé, enfin, je l'ai pas matérialisé, le truc, je sais pas encore. Ça veut dire que là, mon père me dit, tu me ramènes quand le livre, et là, je commence à faire, ah, c'est, en fait, c'est réel ce qui est en train de se passer.
Ah ok, tes parents n'ont pas encore lu le bouquin ?
Non.
Ok.
Du coup, je suis dans la merde. Donc j'ai beau dire, ouais, je te le ramène, un jour ou l'autre, ils vont le lire. Et mon père, il va me prendre pour un ouf.
Ah, c'est sûr.
Ah, il va me prendre pour un ouf. Et là, je vais pouvoir faire le numéro 3.
C'est non, clair, là, la réception.
C'est dur. Je l'ai passé à ma mère.
Ouais.
Parce que, et je lui ai bien expliqué. Mais bon, ma mère, elle est plus...
ouverte.
Ouais, elle a vraiment grandi ici. Ma mère, elle est née... ouais, elle est venue ici. Je crois qu'elle avait 3-4 ans. Elle est venue en France.
Ok.
Elle a vraiment grandi ici. Donc, elle sait que... Elle comprend que c'est un perso, tout ça. Mon père, c'est différent. Il est venu, il devait avoir 20 piges.
Ok. Il venait d'où, ton père ?
D'Algérie.
Ok, ta mère aussi ?
Ma mère du Maroc.
Ok.
Et lui, du coup, ça peut être un peu plus compliqué.
Ouais.
Mais quand il a su, je l'ai jamais vu aussi fier de moi, quand je lui ai parlé du... Je lui ai dit que j'ai fait un bouquin pour la fond, tout ça.
Ouais.
Ah, sa tête, laisse tomber. J'ai cru que j'étais allé sur la lune, quoi.
Ah, donc, c'est beau.
Ouais, non, c'est génial. Le seul truc, c'est que maintenant, je suis obligé de le ramener. J'aurais jamais voulu le dire, en fait. Je me suis trop chauffé. J'étais là, j'étais heureux, fier de moi. Je fais, ouais, pour une fois que j'ai mon père, il va être fier de moi. Allez, go.
Ton père, il est pudique ?
Ouais, à mort. Ouais, à mort, à mort. Ouais, ouais, non, c'est pas... Il est pudique, mais on a toujours grandi avec des débats, des trucs. On a parlé de tout, hein.
Ouais.
C'est juste qu'après, sur tout ce qui est amour, sexualité,
ouais.
Bah, tu sais, c'est à l'ancienne, quoi. On parle pas trop de ça.
Ouais.
Donc, et même moi, je le vois, mes gosses... Wow. Des fois, je suis en train de me dire, putain, il va falloir que je leur raconte comment c'est quoi le sexe, le truc, les nanas. Je dis à ma femme, je dis, toi, t'en occupes, laisse-moi tranquille.
Avec sérieux ça. Ouais, non, mais ça... t'auras pourtant... forcément des discussions peut-être plus avec ton fils qu'avec ta fille, mais quand il sera ado.
Sans doute, mais je suis.
T'as le temps, ils sont petits encore.
Ouais, ils sont petits, mais j'ai pas l'expérience.
Ouais.
Après, peut-être que dans 5-6 ans, je te dirais, mais c'est bon, je sais, c'est quoi le plan. Mais là, actuellement, je me dis, putain, ça doit être dur. Hein. Je sais pas pourquoi.
Mais je pense que notre génération, ça sera plus facile d'aborder certains sujets avec nos enfants que celle de, tu vois, des trucs de consentement basiques, tu vois.
Comme mon fils, il va lire, quand mes enfants vont lire mon bouquin, ils vont se dire, mais c'est ça, papa ?
Ah ouais.
Mais quel détraqué !
Mais certainement, ce serait peut-être plus facile pour tes enfants que pour tes parents, juste histoire de génération, quoi.
Oui, clairement. Ah ouais, parce que moi, mes parents, ça va être compliqué.
Et est-ce qu'ils sont plutôt religieux ?
Pas tant que ça, mais en fait, c'est plus culturel, j'ai l'impression. Parce qu'on a tendance à mélanger un peu la religion aux
coutumes.
Ouais, aux coutumes. Et je pense plus que c'est les coutumes qui font qu'ils ont
un attachement.
Une pudeur, ouais, vraiment une pudeur. Elle est attachée vraiment chevillée au corps avec la sexualité, quoi.
Parce que ton personnage, Vourad... Donc il pratique, il demande son petit tapis, mais pour faire un peu le faillot à sa mère et tout.
Oui.
Mais il y a aucun moment se pose la question de la virginité avant le mariage. Enfin, on comprend qu'il est pas vierge, quoi. Ça, c'est un truc de base.
C'est un mec de cette époque. Moi, je sais que moi, de tous mes potes, je connais pas. J'ai pas un pote qui s'est marié vierge.
Ok.
Tu vois, je sais que pour les meufs, c'est différent. Dans la culture arabo-musulmane et même dans nos générations, c'est encore différent. Mais chez les mecs, il y a pas ça. Après, je pense que c'est par rapport à la pénétration ou autre. C'est vraiment c'est psychologique. Mais ouais, il y a pas ça. Donc ce personnage. Et tu vois,
Toi, à aucun moment, tu t'es dit « je vais garder ma virginité jusqu'au mariage ». C'est jamais un truc qui t'a traversé l'esprit ou que tes parents auraient souhaité si.
Ouais, mes parents, ils auraient souhaité tout ça, je pense. Ouais. Après, c'est mon histoire personnelle.
Non, non, bien sûr. Non, mais tu sais, on en connaît des humoristes qui l'ont raconté sur scène et qui sont restés et qui restent vierges.
Ouais, carrément. Mais...
Moi, après, en tout cas, c'était pas ton histoire.
Ouais, c'est pas mon histoire. Bah, de toute façon, même, c'est vraiment tout ce que je raconte, je l'ai inventé, quoi. Sur ce personnage, c'est dans la façon de penser, c'est moi quand j'avais 20 ans. Mais sinon, sur toute l'histoire, rien ne m'est arrivé.
C'est plein de péripéties, en fait. Mais on voit que c'est forcément inventé, puisque ce qui est drôle, c'est que c'est toute une accumulation d'accidents qui empêchent le personnage de Ken.
C'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, la finalité, c'est que... Enfin, je veux pas spoiler, mais c'est ça, on va dire, sa quête.
Ouais.
Sa quête de sens, lui... On pense dès le début que comment je pose les choses, on pense que c'est un personnage qui veut juste baiser, et pendant tout le film ça va tourner autour de ça, puis après au fur et à mesure il apprend à se connaître, c'est surtout ça.
Mais est-ce que, donc, même si toutes ces péripéties sont inventées, est-ce que toi aussi tu t'es laissé surprendre par le fait de tomber amoureux de ta femme, ou est-ce que c'était quelque chose que tu désirais en fait assez tôt, t'avais quand même envie de te poser, de fonder une famille rapidement, d'être papa tôt?
Moi, j'ai jamais. Ouais, je pense que j'ai toujours voulu. Très vite, je me suis rendu compte que je voulais me poser avec une meuf. Mais, genre, vraiment très tôt, je crois, vers 16-17 ans, j'ai compris que j'étais pas un mec qui voulait. Franchement, une période de 18 à 20, 23, 24 ans, boîte de nuit sur boîte de nuit, tout le temps dehors, mais vraiment un rat des villes. Et en fait. J'ai compris, même pendant que j'étais tout le temps en boîte et tout, je savais que c'était de la merde.
C'est moi ou les Marocains sont plus clubbeurs que les Algériens? Pardon, gros cliché, hein. Mais de mon entourage, de ceux que je connais qui sont sortis en boîte.
J'ai jamais fait d'études culturelles là-dessus, ouais. Mais je pense qu'il y a peut-être un truc. Après, c'est vrai qu'il y a des villes qui bougent un peu plus. Enfin, je veux dire,
les villes de la fête.
Ouais, Marrakech, tout ça, c'est assez touristique. Il y a une grosse. Plus de possibilités, je pense, en termes de clubs et tout, donc forcément. Mais je sais pas, peut-être, ouais. Peut-être. Non, mais moi, après, c'était les potes et tout.
Ouais.
Puis je bossais beaucoup la nuit, et du coup, tu bosses la nuit, tu finis le taf, t'as pas envie de dormir, tu sors, quoi.
Donc pendant 4 ans, genre, en gros, tu bourlingues, quoi.
Ouais, et je sais que c'est pas ma vie.
Ok.
Je sais très bien que, moi, il faut que je vais marier. Je veux me mettre...
Attends,
pas forcément marié. Hein.
Je t'interromps 30 secondes. Ouais. Donc en fait, à la base, tu savais très tôt que t'avais plutôt envie de te maquer, mais tu passes par une phase où tu sors beaucoup, tu fais une expérience et tu te rends compte que ça te convient pas, en fait. En gros, ça te convient pas les coups d'un soir, quoi.
Ouais, non mais moi, j'ai jamais été là-dedans, tu vois.
Mais ça a marché, au moins
Ouais, vitef, tu vois, mais c'est... Mais
comment tu draguais en boîte?
Alors franchement, je m'en souviens pas. Non, mais j'étais pas un gros dragueur, moi. Après, tu sais, tu connais, hein, nous, on est des humoristes. Hein.
Ouais.
Je veux dire, c'est de la vanne, c'est des trucs, c'est des conneries.
Ouais. Toujours par la vanne, par l'humour.
Ouais. Mais après, je te jure que j'ai senti dès le début que j'aimais juste en fait être avec des potes, m'amuser en boîte, et puis c'est tout. Après, c'était juste un prétexte pour sortir avec les potes.
Ouais.
Et puis voilà, quoi. Et puis je rencontre ma femme.
En boîte?
Non, au Paname.
Non,
au Paname.
Ah ouais.
J'étais serveur encore.
Et elle est spectatrice.
Et coup de foudre. Et première fois de ma vie, je vais voir une. Pendant que je taffe, je vais voir une cliente et voilà.
Donc en fait, c'est la scène un peu inversée de la boîte de nuit où c'est elle qui travaille et toi qui es client, sauf que c'est toi qui travaille et elle qui est cliente.
Exactement, c'est ça. Putain, j'avais jamais fait gaffe. Eh ouais, tu vois comme quoi, hein, la vie, en fait, on croit qu'on invente des choses. Rien ne se crée, tout se transforme.
Ouais, c'est ça, c'est un peu infusé. Ok. Et donc, ah ouais, coup de foudre au premier regard, quoi.
Ah ouais, vraiment. Et je mets quand même du temps avant qu'on se mette ensemble. Je crois, ouais, peut-être 6 mois.
Ah ouais, donc 6 mois.
6 donc... mois de tractation. C'était dur.
Est-ce que tu penses que c'était stratégique de sa part à elle, qu'elle a été maline et qu'elle t'a un peu fait marcher pour entre guillemets faire monter les enchères?
Non, c'était pas. Elle était pour cette époque, elle était pas prête.
Elle était pas prête. Vous avez vraiment 7 ans d'écart. Sauf qu'elle était mineure, ouais. Elle avait pas 18 ans, elle en avait 16.
On a dû attendre. Elle avait 17 ans et demi et du coup. Bam, j'ai attendu 6 mois. Non, on n'était pas et puis on avait chacun nos vies et, et puis après ça fait que la vie a fait que voilà, on s'est revus, on s'est mis ensemble. Au bout d'un mois, je l'ai demandé en mariage.
What?
Moi, j'ai demandé un mariage. 6 mois plus tard, on était mariés. Oh. Tout allait à 2000 à l'heure.
Putain, ça me fait trop rêver parce que moi, c'est exactement ce que je cherche aussi.
Mais je le savais.
Tu le savais?
Ouais, je sais pas. Je le savais.
Mais donc, tu lui as dit je t'aime hyper vite?
Ouais, dès le début.
Dès le début?
Ouais, mais moi, j'ai aucun problème.
Et ça, l'a... bah ouais, c'est trop bien.
Moi, dire à ma femme que je l'aime, j'ai aucun problème.
Bah, c'est génial. Mais tu te rends compte que t'es quand même. C'est assez rare, non? Tu crois pas?
Peut-être, mais.
T'as pas fait ton bonhomme là-dessus, quoi. T'as non. totalement. T'étais au proche non, de tes non, sentiments, non, tu savais ce que tu voulais.
La première fois j'ai essayé de l'embrasser, elle m'a mis un stop. Et je suis revenu. La vie de ma mère, quand je suis rentré chez moi, je dis ah ouais, elle va voir cette pute. Plus elle me revoit.
Attends, non, mais moi, pardon, mais là, je veux plus de détails sur cette scène bien particulière. C'est-à-dire, parce que se prendre un râteau du baiser, c'est quand même d'une violence. Oui, parce qu'une meuf qui veut pas ken, à vrai dire, tu vois, ça arrive tous les jours. Mais là, même le bisou, elle a pas voulu.
Ouais, elle a fait ça. Elle a fait la go, quoi. J'ai fait, ok, d'accord, tranquille, tu veux te la raconter, ma liche.
Oh, putain.
Et je suis revenu le lendemain. Et elle m'a dit, et en plus au début elle a cru que vraiment, elle m'a dit ouais, j'ai cru que t'allais mal le prendre, que genre t'allais plus venir me voir et tout, t'allais plus me parler. J'ai dit bah non, tranquille. Et puis voilà quoi, ça allait vite, hein.
Putain, incroyable.
Après, ouais, au bout d'un mois mariage, mais tu sais, les Arabes on se marie vite, hein, la vie de ma mère.
Bah vous avez raison, je trouve.
On se marie vite, après deviendra ce qu'il advienne, c'est, je veux dire.
C'est important pour toi que ce soit d'épouser une musulmane?
Pas forcément. Mais pour
tes parents,
pour mes parents, quoique. Je te jure que mes parents en fait ils s'en foutent, tant qu'on vit pas chez eux ils s'en foutent. Juste ça, cassez-vous, faites votre vie. Mais non, c'est je pense que c'est plus une question de pratique. Parce que moi je suis pratiquant et je préfère avoir quelqu'un qui me comprenne.
Vous priez ensemble?
Pas forcément.
Non, c'est assez solitaire la prière.
Ouais. Au début, ouais, mais maintenant de plus en plus solo, en despie et tout. Mais c'est vrai que ça, moi j'en avais besoin. Après, même j'ai envie de te dire, c'est même pas je voulais me marier avec une musulmane, mais je voulais me marier avec quelqu'un qui me comprenne dans ma façon, parce que moi j'ai grandi dans une famille musulmane, enfin, même si c'était pas super pratiquant, une famille rebeu. Je vivais au-dessus d'un bar PMU. J'étais dans une école catholique.
Ok.
Je traînais à la cité. Tu vois,
les influences.
Ah, j'ai toutes les influences. Mais j'avais besoin, et sans le savoir, c'est maintenant avec du recul que je commence à comprendre. J'avais besoin, je pense, de faire ma vie avec quelqu'un qui a cette culture. On va dire culture rebeu, tu vois. C'est même pas une question d'islam, c'est une question de culture.
De gastronomie, rebeu. Limite.
Ouais, voilà. C'est une
question de les mêmes choses.
Ouais, tu vois, c'est con, hein, mais c'est ça. Ouais. Et j'ai un pote qui, lui, s'est mis avec une Guyanaise.
Okay.
Et il est amoureux d'elle et tout. Et il me dit, je te jure. Et quand je lui avais dit ça, il m'a dit, je vois ce que tu veux dire. Il me dit, c'est une question de délire, c'est une question de référence.
Ouais.
Il me fait des fois. Enfin, je sais pas, des petites rêves que je vais lui faire des vannes, elle va pas trop capter parce que c'est pas du tout la même culture.
Ouais.
Et enfin, il me comprend là-dessus, tu vois, mais ça veut pas dire que c'était voilà, je veux une. C'est le hasard, quoi.
Ouais.
Vraiment, c'est le hasard.
Et avant, dans tes petites histoires comme ça, t'avais expérimenté tout, d'autres choses.
Tout,
ouais, tout.
Tout. J'ai vraiment Subway.
C'est pas mal, comme ça, il n'y a aucun regret.
Vraiment, j'avais pas de. Et puis, j'ai jamais eu de. Tu sais, ce truc, moi, je comprends pas les gens qui disent ouais, moi, c'est mon style de meuf.
Ouais, ah, ok.
Ça, je sais pas.
Sérieux? Je ne connais
pas ça, parce que pour moi, c'est plus. Moi, ce qui m'intéresse de ouf chez une meuf, déjà, c'est si elle est bon délire. Et si elle a du rythme.
C'est
une dessus. Nana qui a pas de rythme.
Ouais.
Qui danse mal.
Ah, toi, tu parlais sur le dance floor.
J'ai envie de me battre.
Ah ouais?
Une nana qui.
Un bâton,
tu sais, le mouvement comme ça qui suit pas, oh, ça me rend ouf.
Bah, ça veut dire qu'elle baise mal, quoi. C'est sûr, c'est corrélé.
C'est un détail, mais tu dis, c'est quelqu'un de méchant. Il y a un truc qui me dégoûte.
Peut-être pas, mais.
Ça me dégoûte.
Bah, le rythme, oui, là, pour le coup, c'est vraiment lié à la sensualité,
quoi. Tu vois, il y a un truc, je sais pas, il y a quelque chose qui me.
Après, c'est bizarre parce que moi, un mec qui a pas de rythme, ça me dérange pas. J'ai déjà vu des mecs qui dansaient pas du tout et qui baisaient bien, comme quoi.
Les mecs, il y a plus de gars qui ont pas de rythme, j'ai l'impression, que de gars qui l'ont.
Ouais.
Alors que les nanas, c'est très rare une nana qui a pari. Normalement, les meufs, vous dansez assez bien. Vous avez le... Enfin, je trouve que vous sentez la musique.
Les blanches, pas trop, je crois.
Ouais, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a des lacunes. Hein.
Ah ouais, il y a des lacunes.
Il y a quelques lacunes, ouais, il y a des lacunes.
De ouf, hein.
Mais ça va venir, hein. C'est... Parce que...
Quelque, genre une décennie de Zumba finira par...
Ouais, tout ça, à un moment donné, ça va venir. C'est normal, c'est comme tout, on s'adapte.
Hein. Ouais.
On s'adapte. Mais non, j'ai jamais eu de style de meuf et tout.
Ouais.
Ça, je comprends pas. Moi, c'était vraiment, c'est le feeling, c'est... Ma femme, dès le début, j'ai fait « Ah ouais, elle est géniale. Mmh. Elle est trop drôle et tout, elle est vive. »
Elle danse bien.
Elle danse bien. Ça, c'était parfait, quoi.
Ouais.
Mais quelqu'un de vif, déjà, c'est trop intéressant.
Mmh.
C'est con parce que, en fait, l'humour et la vivacité d'esprit, on le prend pour de l'intelligence.
Mmh.
Et, qui est, à mes yeux, je pense que l'humour, c'est une forme d'intelligence, tu vois. Mais automatiquement, et j'ai toujours été attiré par les gens intelligents, donc je pense que ça, je veux pas aller jusqu'à dire que je suis sapiosexuel, mais c'est quand même un critère qui est super intéressant d'être avec quelqu'un à qui tu peux pas la faire à l'envers.
Ouais, ouais.
Si t'es avec quelqu'un et tu sais que tu peux mettre des disquettes ou autre, moi une année une fois m'est sortie, j'avais 18 piges. Hein. La scène est incroyable. On est en vacances dans le sud, on est dans un jardin, je sais pas quoi, il y a des étoiles. À un moment donné, il y a une grande étoile et je lui fais genre ouais tu vois ça c'est la grande ours, c'est M croix.
Oh,
je me dis putain c'est Gaulmont.
Hey, trop
mais,
naïf.
La meuf mais Gaulmont. Et à un moment donné je lui dis tu vois ça, tu vois cette étoile là, et regarde, je fais ça, c'est un Paris Nice, c'est le ah non non non, et tu sais je rentre dans les trucs comme ça, il me fait ah, c'est un avion. Et
là,
je
merde.
Fais, oh, mais elle est vraiment cool. Et tu sais quand j'ai vu ça déjà ça m'a fait mal parce que j'ai fait il y a un truc qui était cassé. Et elle m'a dit j'aime trop ta, comment elle m'a dit, elle m'a pas dit ta culture, elle m'a dit ta cultivation.
Oh, ah, ouais, elle parlait pas bien français,
ah, ouais,
quoi.
Ouais, ça m'a détruit.
Non, mais c'est ouf ce que tu racontes, parce que j'ai l'impression, moi, j'ai plein de potes mecs qui me disent que limite, c'est un fantasme pour eux, une meuf un peu teubée, ça les excite. Pour un soir, hein, ils vont pas la revoir, mais plus elle est teubée, plus ils ont envie, genre.
Ouais, je pense que c'est du fait que moi, je me suis jamais dit pour un soir.
Ouais.
Tu vois, donc.
T'as jamais été dans l'accumulation, quoi. À chaque fois, il y avait peut-être la possibilité de se poser.
Non. Ouais. Ouais. Après, mais c'est parce que aussi, je sais pas, c'est ma façon de... J'en sais rien, peut-être dans mon éducation.
Mmh.
Je sais pas d'où ça vient, mais ouais, j'ai toujours été...
Respectueux, quoi.
Ouais, et moi, si je me mettais sur les côtes d'une meuf, c'était pour me mettre avec. Je me suis jamais dit, juste tu la ken et tu te barres.
Ouais.
J'ai jamais eu ce truc-là. Après, peut-être que je suis encore à l'ancienne ou je sais pas. Par exemple, ce que je disais à ma femme récemment, je dis, putain, mais si un jour on divorce, je vais être en galère. Parce que les nouvelles générations, les Tinder, tout ça, mais comment je vais faire, moi? Moi, je vais être en galère, je vais sur Tinder, je vais faire rendez-vous, chandelle. La meuf va me dire, mais quand est-ce qu'on baise? Qu'est-ce que tu me fais chier? Je vais vraiment être en galère. Je connais plus tout ça, moi. Vraiment, je connais pas tout ça. J'ai jamais déjà essayé de me mettre dans ça plus jeune, et maintenant, encore plus. Je suis largué par ça.
Ah ouais, mais t'en parles pas. Moi aussi, je trouve ça impossible. Mais donc, en fait, t'as toujours été finalement assez romantique, quoi. Tu crois pas que les gens qui parlent de cul, c'est pour dissimuler leur romantisme?
Non.
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 C'est
Alexandre Cominec, crache un blaze.
Ouais,
Alexandre, je sais que t'es un grand pervers. Il n'y a aucune romance. Lui.
Aucune romance, c'est clair. Cominec, c'est juste le sexe pur et dur, sale.
Non, mais il y en a. Non, je pense pas. Je pense pas que ça soit ça. Hein. Je pense qu'il y en a, c'est une passion. Ils ont une passion pour la ken et vraiment, ça devient. Après, ça devient même une addiction.
Ouais.
Il y en a, ça devient une addiction et c'est un. Enfin, ça peut devenir un, comment dire, une réelle addiction, quoi,
un cercle
vicieux où tu rentres dans un truc. C'est le film Shame, il le traite
incroyable,
super bien.
Incroyable, ce film. Génial.
Comment il traite de ça, tu vois la misère sexuelle et
incroyable.
Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la misère sexuelle. Et j'ai vu que, parce que là, maintenant que je suis romancier, je suis obligé de lire beaucoup.
Ouais.
Et j'avais jamais lu de Houellebecq.
Incroyable. Génie.
Ouais, et en fait, il traite beaucoup de la misère sexuelle.
Formidable. C'est
il traite beaucoup de ça. Et
c'est son sujet de
le savoir, sans le savoir, moi aussi, j'en ai beaucoup traité dans le bouquin. Mm. Parce que, bah ouais, c'est clairement ça. C'est le fantasme et la réalité.
Et la frustration. T'as lu de Houellebecq le.
Les particules élémentaires, j'ai lu là.
Les particules élémentaires, putain, chef-d'œuvre. Celui. Domaine de la lutte.
Ah oui, non, je l'ai pas lu celui-là.
Oh putain, il est génial.
Putain, en plus, il y a 2-3 jours, on m'a dit, faut que tu lises absolument.
Oh là là.
Mais moi, j'ai un problème, c'est que j'ai peur de trop lire quelqu'un.
Ouais.
Et après, trop m'inspirer. Du coup, je fais par petites touches. Vraiment, ouais. Je suis un impressionniste de la lecture.
Ouais.
un pointiste. J'attends un an avant d'en lire un autre de telle ou telle personne parce que j'ai pas envie que. C'est comme en humour, Dieu donné.
Ouais. Tu faut vois, pas Dieu... trop regarder. Oui, oui, je vois.
Dieu donné. Moi, j'ai arrêté de le regarder en 2012, je crois.
J'aime bien parce que tout le monde a arrêté de le regarder parce qu'il était antisémite. Toi, c'était parce que tu.
C'était même pas ça. C'était même pas ça. Parce que je savais le personnage, mais il me faisait tellement rire. Au début, j'avais un doute. Et jusqu'à Manuel Valls, je crois que c'est en 2013, ça commence à partir en couille avec Valls. Jusqu'à Manuel Valls, j'ai toujours cru qu'il jouait un personnage. Et puis après, je me suis bien renseigné et j'ai fait ah ouais, non, en fait, c'est un vrai de vrai, lui. Oh là là, Tarbox, il m'a bien baisé, lui. Vraiment, je me suis dit ça. Et lui, par exemple, pour le coup, je t'ai dit, j'ai arrêté de le regarder vers 2013, quand ça a commencé à chauffer avec Valls et que j'ai vu que. Ah non, on était allé avec ma femme. On est allé à un spectacle, c'était 2013, c'est ça. On est allé à un spectacle et c'était en pleine polémique. Et au début, je me suis dit, bon, ça va être cool. Et je pensais encore qu'il n'était pas, c'était pas un antisémite. Et là, je vois le spectacle, je vois le public en fait.
C'était que des antisémites.
Et en fait, le public fait peur. Et quand tu vois le public, je dis à ma femme, mais en fait, là, on est au milieu d'eux. Tu vois l'image. Il y avait un mec à côté de moi, mais il avait un masque d'Anonymous.
Ouch, putain.
Il y avait que des ouf. Et il fait tout un spectacle très drôle, et il fait deux vannes sur les feuges. Mais vraiment deux. Mm. Et c'est à mes yeux, c'était les moins bonnes du spectacle. Mm. Et là, hola dans le public.
Ouch, ouais.
Et là, je suis avec ma femme, je fais, ah, putain, ouais, faut qu'on se casse.
C'est ça l'ambiance.
Ouais, ouais, donc le spectacle.
C'est triste, hein.
Ah ouais, je mets ma capuche et je me barre.
Ouais.
Et à partir de là, ouais, c'est à partir de là que j'ai arrêté de regarder ce qu'il faisait, parce que déjà, j'avais plus de doute sur sa culpabilité, et puis surtout parce que. Il y a un mimétisme qui se crée.
Mmh. Ouais, c'est ça, c'est qu'on...
Il y a les enfants de Dieu donné, tu les vois partout.
Ouais, bien
chaque
sûr.
Chaque plateau de
stand-up, il y a une musicalité, certains, c'est terrible, ceux qui n'ont plus leur voix, tu sais, ouais. C'est que des accents, et ils reprennent...
C'est les enfants de Dieu donné.
Ouais, c'est
tu
ouf.
Tu le sens quand un humoriste, il regarde beaucoup de Dieu donné, tu le sens dans sa façon de parler, il va se trahir à un moment donné, il va balancer un calme-toi, un truc.
Ouais.
Au-dessus, c'est le soleil. Tu vois, dès qu'un mec il a ce vocabulaire, c'est bon, allez, salut.
Ouais.
Et je trouve que la lecture, il y a ce truc-là où il peut y avoir du mimétisme. Enfin, l'écriture, il peut y avoir du mimétisme.
Ouais, parfois ça inspire. Moi, sur mon livre, quand je l'écrivais, en fait, au contraire, ça m'a aidé de lire en parallèle du Houellebecq parce que j'avais peur en écrivant. D'aller vers un truc un peu trop féminin, littéraire. Quand j'étais au lycée, moi, j'avais des bonnes notes en français. J'avais écrit un recueil de poésie un peu gothique, un peu morbide, et j'avais peur que ça soit mièvre.
Oui, tu vois. En gros, c'était pour te rassurer.
Non, c'était pour un peu m'influencer en bien, parce que Houellebecq, c'est le mec à qui, en fait, on a dit qu'il n'avait pas de style, alors qu'il a un style, mais il fait des phrases assez courtes. En fait, à part, de temps en temps, il a des envolées, mais sinon, c'est des phrases très courtes. Et résultat, moi, c'est ce que... Je voulais, et puis je savais qu'étant une femme, étant en fait parlant, j'avais pas peur de lire un homme parce que je me disais on est tellement différents dans ce qu'on raconte que si c'est juste un peu le style qui m'influence, c'est pas grave, c'est pas le thème, le truc. Et ça m'a un peu, moi ça m'a entraînée en fait de lire. Et puis c'est bien parce que j'avais une espèce de no limit en le lisant. J'étais genre, tu vois, en lisant des trucs sur les putes en Thaïlande, j'étais en mode, ok, tout va bien. Tu vois, ça me mettait à un niveau de d'exigence d'aller loin, tu vois, de pas rester sage.
Moi j'ai eu ça en gros au tout début, il y a quelqu'un qui m'avait dit, on dirait un peu Beck BD sur. L'amour dure 3 ans. Ou je sais plus quel bouquin. On me dit que ça ressemble à ça. Et moi, je l'avais pas lu, tu vois. Moi, de BD, j'avais lu un roman français que j'ai trouvé vraiment bon, mais qui avait pas cette touche très sexuelle dans son écriture. Et donc, j'ai commencé un peu à lire. J'ai fait, ah ouais, il y a un côté épisode, il y a un côté phrase assez courte. Mais je pense que moi, ce qui m'a influencé, c'est le stand-up.
Ouais, non mais.
Moi, c'est le stand-up qui a fait que. Moi, il y a beaucoup de phrases courtes, tu le vois très bien. Ouais. Et c'est le fait
d'avoir. Enfin, c'est quand même fleuri de vannes, c'est truffé. La drague, c'est un peu comme la politique, tu peux pas dévoiler ton vrai programme, sinon on vote pas pour Watt. Tu sais, c'est que des punchs, mais genre. des one-line, quoi. Les trucs purs, genre vraiment... tu sais, je me demande s'il n'y a pas des élèves dans les écoles de stand-up qui vont, genre, lire... tu sais, des scènes d'audition, quoi.
Mais tu sais, c'est marrant, parce qu'au début, moi, le stand-up, je voulais faire du one-line. Au tout début, quand je suis monté sur scène. Parce que moi, j'ai arrêté de regarder les... En fait, quand j'ai arrêté de regarder Dieudonné, je me suis dit, arrête de regarder les Français. Parce que ça va te... Tu vas peut-être t'inspirer. Parce que je me suis dit, si je me suis inspiré de... Enfin, que je voyais tellement de gens qui ressemblent à Dieudonné que je me suis dit, bah, à un moment donné, ça va m'arriver, tu vois. Donc, j'ai arrêté Dieudonné et l'humour français en général. Parce que je me suis dit, ça se trouve... parce que dans un coin de ma tête, je savais que j'allais monter sur scène, tu vois. Et du coup, j'ai arrêté de regarder tout et je me suis mis que sur les ricains.
Et c'est qui les ricains que t'as kiffé?
Bill Burr. Bill Burr, Neil Brennan, de Dave Chappelle.
Ouais.
Dave Chappelle, mais je suis pas aussi fan que tout le monde, tu vois, tout le monde est un peu,
oui.
Tout le monde est chaud dessus, mais moi je trouve
parce qu'il est très charismatique, mais les blagues elles sont pas en sous, parfois.
Des fois ça me fait voilà, alors que Bill Burr,
moi
Bill Burr il me touche à chaque fois parce que il a le personnage du fils de pute et moi ça me bute de rire.
Ouais.
Tu sais, le personnage du redneck un peu connard, réac. De droite, c'est ma cam.
Moi, j'adore Neil Brennan.
Neil Brennan, incroyable.
Oh, j'adore. Incroyable. Parce qu'il a tout pour justement. C'est l'anti-Dave Chappelle, dans le sens où Dave Chappelle, il est beau, il fume, il arrive sur scène avec un costume. En fait, il pourrait ne rien dire. Déjà, tu l'admires, déjà, t'es fan.
Neil Brennan.
Et là, il est avec ses lunettes, sa tronche, mais pas beau. Donc, tu lui donnes pas trois copecs, quoi. Et en fait, il commence à balancer des vannes, et les vannes, elles sont.
Ah ouais, en termes de niveau, moi, Neil Brennan, c'est vraiment, j'ai été choqué. Hein.
Ouais.
J'ai été choqué. Mais ouais, c'est vraiment Neil Brennan et Bill Burr. J'ai commencé à regarder eux. J'ai regardé aussi Zach Galifianakis, qui a son style assez absurde.
Très dans la gêne.
Ouais, et dans le one line. Ouais. Vraiment, j'ai kiffé ça et je me suis rendu compte assez tôt que déjà qu'en France, c'était pas faisable.
Ouais.
Donc ça m'a un peu déçu au début. Je me suis dit, putain, j'aurais bien voulu faire un truc comme ça. Puis après, au fur et à mesure, tu te laisses happer par la vague, quoi.
Ouais.
Tu commences à faire ce que tout le monde fait. Tu fais du stand-up du Paname, stand-up du Fridge, stand-up du tout ça, tu vois. Parce que ton humour s'adapte au public.
Ouais. Et là, justement, que tu as écrit le livre, maintenant, tu es romancier, que tu es écrivain, est-ce que tu as aussi envie d'être humoriste? Tu veux retourner sur les plateaux, refaire un spectacle? Ouais.
Je sais pas, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir sur une heure où je me suis rendu compte que j'étais à l'aise et que je pouvais aller aussi loin que sur Instagram. Sur Instagram, des fois, je vais vraiment très loin.
Ouais.
Et ben, je me suis rendu. Et des fois, au tout début, j'ai essayé d'aller aussi loin sur les plateaux. Et je voyais
que. Tu pourras jamais aller aussi loin.
Non, parce que le public, s'il vient pas pour toi, il va pas.
Il sera trop choqué.
Il sait pas s'il a le droit ou pas de rigoler.
Ouais, bien sûr.
Et du coup.
Et parfois, il a pas la ref.
Bah ouais, tout simplement. Alors que sur mon spectacle, je me suis vraiment éclaté parce que les gens, ils venaient pour moi. Donc, automatiquement, t'as 50% du travail qui est fait.
Grave.
Et là. Je sais plus, mais vraiment, chaque spectacle, j'en ai fait, je suis deux ou trois, j'avais 5, 6, 7 applauses sur des trucs que j'aurais jamais eu en plateau.
Mais bien sûr.
Parce qu'en plateau, il y a un côté humour Kleenex.
Ouais.
Où allez, chacun son tour, t'as 7 minutes, allez, à toi.
C'est beaucoup plus lisse.
Ouais,
beaucoup plus lisse. Et
il y a un truc fake.
Ouais.
En fait, il y a un truc fake, tu sais, l'autre il arrive avec son micro, il essaie de faire genre le mec à l'aise, la main sur le pied de micro. Alors, salut, hein, du monde. Tu sais, il y a un truc.
Ouais.
Il y a un truc qui me dérangeait.
Ouais.
Le Covid arrive au bon moment. J'ai essayé de reprendre après le Covid, enfin, l'été dernier. Et il y avait un truc de cassé. Et il y a un truc qui m'a dit. Parce que moi, j'estime qu'on est dans un pays de théâtre. Pour moi, le stand-up, c'est une. Après, c'est vraiment ce que je pense. Mais pour moi, le stand-up, c'est une hype.
Tu crois que ça va passer?
Je pense dans 5 ans, c'est fini. C'est... Après, voilà, mon radamus. Hein.
C'est tellement radical.
Ah ouais, moi je suis super radical sur ces trucs-là. Je pense vraiment dans 5 ans, il n'y a plus de hype autour du stand-up. Et là, on est en train de vivre les meilleures années du stand-up français. Et qu'on va revenir aux valeurs des Français. Parce que quand tu regardes les entrées, les pièces de théâtre, c'est un carton.
Ouais.
C'est un carton. Et du coup, là, je suis en train de. C'est pour ça que pour le livre, j'ai commencé, je te le dis, à l'adapter en pièces de théâtre. Et je suis en train d'écrire aussi un spectacle.
Ça marchera toujours, le théâtre.
Ouais.
Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que le stand-up encore de beaux jours. Peut-être pas, mais en effet, par contre, c'est sûr que c'est une culture américaine de parler de soi à la première personne et que les gens sont pas du tout encore habitués.
Je suis persuadé qu'il faut accessoriser un peu plus. Et là, je suis en train d'écrire un spectacle que je vais jouer pendant 15 jours pour Halloween. Un spectacle d'humour, mais qui fait peur.
Ok, trop bien.
Et avec une mise en scène, il va se passer. Je parle au public, mais ça va être théâtral.
Donc,
c'est pour ça que je te dis, je suis persuadé que le mec qui vient avec son micro, son pied de micro, qui raconte des histoires pendant une heure, j'ai l'impression qu'il va y avoir une limite à un moment donné et que le public va en demander plus. Et j'ai beaucoup de retours là-dessus. Par exemple, moi, avec le bouquin, j'ai eu beaucoup de journalistes qui m'ont dit, quand on a vu, vous étiez stand-upper, on l'a lu un peu à recul au début.
Ouais, mais attends, aussi, c'est pas...
On paye le prix du trop-plein de vidéos YouTube. Il y a eu trop d'humoristes pas drôles qui ont fait des captas. Et il est là, le vrai problème. tu vois, moi, on m'avait proposé des passages télé, on m'a proposé plein de trucs, j'ai toujours refusé parce que j'estimais que je suis pas encore assez bon. Je disais, pour l'instant, j'ai peut-être le niveau pour faire rire des gens dans une pièce, mais le niveau, enfin dans une salle avec un public et tout ça, mais le niveau pour faire rire quelqu'un chez lui tout seul devant son téléphone, ça c'est autre chose.
Je pense que c'est un peu ce que tu disais sur Dieudonné, c'est-à-dire que peut-être la réticence de ces journalistes, c'est aussi parce que il y a eu un tel boom avec le Jamel Comedy Club, mais il y a quoi, 12, 15 ans pratiquement maintenant, que en fait il y a beaucoup d'humoristes qui ont copié, qui ont fait j'habite dans un pays au sud de l'Italie, etc.
Exactement.
L'Algérie, et en fait ces blagues là comme on les connaît par cœur, résultat quand tu vois la 15e personne en plateau, mais ce que tu fais très drôle dans ton bouquin, quand tu fais je vais pas vous faire l'humoriste donc il s'est fait battre par ses parents, tu désamorces une espèce de cliché qu'on a vu 100 fois sur scène, et résultat c'est vrai que ça apporte un peu préjudice parce qu'on dit les gars il faut un peu renouveler. Après moi je pense que Blanche Gardin, elle a vachement renouvelé la donne en France.
Oui,
quand même.
Mais elle a renouvelé.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Complètement.
Si Blanche a été restée après
ouais, vraiment, sur le Jamel,
je suis fan de ouf, vraiment.
Ouais.
Si elle était restée sur la
perso,
Blanche
ouais.
du début, sur le Jamel, je pense qu'elle serait pas.
Ouais, ce qu'elle est aujourd'hui.
Et ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la crème de la crème parce
Complètement.
Que. Et c'est con, hein. Mais parce qu'elle est stoïque. Elle est droite dans ses talons, elle
puis
bouge pas.
L'écriture
est fabuleuse.
Sublime.
Et puis il y a un décalage entre l'écriture et ce qu'elle rejette. Donc c'est toute une alchimie, mais c'est un travail.
Ouais.
On s'en rend pas compte, c'est un travail incroyable.
Ah ouais,
ça.
C'est énorme.
C'est comme au foot. Moi j'aime bien faire des analogies avec le foot. Au foot, plus tu joues simple, plus tu joues bien.
Ah ouais.
Et t'as le mec qui va arriver, qui va faire des crochets, des trucs, des nanas. Alors qu'en fait, 2-3 passes, ça y est, but. Et tu dis, c'est beau.
C'est clean.
Et ben, Blanche Gardin, c'est ça. C'est beau. C'est simple, c'est efficace, c'est beau.
Ouais.
Alors qu'il y en a, ils vont faire plein de trucs, plein de
mouvements. Ah ouais, hurler, la surénergie.
Ouais, surénergie. Et, tu dis,
c'est hyper ringard, en fait.
Ça,
c'est
t'as
bon.
Pas besoin de
ouais, ça y est, c'était fait. Ouais.
C'est pour ça que moi, je pars du. C'est mon avis, hein. Je pense qu'il va y avoir une. On est dans la hype et à un moment donné, ça va redescendre. Et que les humoristes, ils vont avoir besoin de se
remettre en question. Et c'est qui les personnes à qui t'as envoyé ton livre ou qui ont lu ton livre, les personnes dont t'avais le plus envie qu'elles le lisent ou les personnes que ça t'a flatté qu'elles le lisent, ou j'ai vu que t'avais fait une story Jason Brokers, si tu lui as envoyé.
Ouais, je l'ai envoyé à Jason. Non, mais je l'ai envoyé parce que Jason, il a commencé il y a.
Très fort.
Ouais, et quand il a. C'est un des meilleurs, hein. Franchement, il est vraiment très bon dans l'écriture, dans le jeu. C'est comme je te dis, c'est simple.
Je lui ai proposé de venir dans le podcast, il n'avait pas le temps, il en avait fait d'autres, j'étais dingue.
Simple, efficace.
Ouais.
Jason, il n'y a pas de.
Et moderne.
Ouais.
Il n'y a jamais un cliché qui va te sortir
non.
de sa bouche.
Non, non.
Jamais
non.
un cliché.
Parce que c'est pas sa vie.
Ouais.
Tu vois, il ment pas. C'est pas un menteur.
Non.
Et c'est ça.
Et puis il y a eu une espèce de modernité avec Jason Brokers, c'est qu'il a parlé de la religion en fait comme les humoristes n'en avaient pas parlé avant. C'est-à-dire qu'avant il y avait peut-être certains qui parlaient d'une espèce de culture ou d'héritage rebeu, mais pas du fait d'être musulman. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a eu un nouveau truc avec Jason Brokers en fait.
Bah,
très à part.
Je trouve qu'il a bien mis en. Moi, souvent on parle de ça avec lui. En plus, c'est l'humour islamique. On se fait des vannes des fois, mais c'est archi drôle. Quand en tant que musulman, tu te dis putain, la vanne, elle est super drôle, mais tu peux pas la faire au Paname ou en public ou sur plateau parce que ça touchera pas tout le monde. Du coup, forcément, c'est des trucs que tu peux pas jouer. Mais on a ce truc d'avoir beaucoup de recul sur la religion. C'est pas du blasphème.
Non.
Tu vois, c'est on se fait des vannes sur tel ou tel truc, mais c'est pas du blasphème. Et lui, il est excellent là-dedans.
Excellent.
Ah ouais, non, il est bon. Et puis humainement, c'est
il est tout gentil.
Il fait partie de ces gars du milieu qui, moi, je le connaissais avant qu'il fasse du stand-up, on est encore potes, on habite à côté, et vraiment, ouais. C'est un bon gars, quoi.
Toujours un sourire, toujours...
Ah ouais, ouais, non, c'est une crème. Vraiment.
Donc, il y avait Jason, et il y avait qui d'autre parmi les gens à qui t'avais très envie d'avoir un retour positif?
Malik, Bentala.
Ok.
Ouais, ouais, ouais. Et là, je lui ai envoyé, en plus, il est en tournage.
Ok.
Et je lui ai envoyé, je me suis dit, puisqu'il réalise et joue le premier rôle, donc il y a beaucoup de boulot. Et il a quand même pris le temps de le lire et il est mort de rire, quoi.
Génial.
Ouais, ouais, non, il est franchement, ça me fait plaisir de... Tu vois, des mecs comme As qui kiffent, ça me fait plaisir. Thomas Wiesel aussi, j'aime beaucoup Thomas
Wiesel.
Ouais,
très fort.
Je l'ai envoyé à...
Ça m'étonne pas qu'il soit fan de toi.
Mais là, je l'ai envoyé, j'ai essayé. Après, il y en a plein, ils l'ont pas encore reçu parce que, bon, Chronopost, ils font de la merde, mais...
Ouais, putain.
Mais non, mais je l'ai envoyé à plein de... Et puis, il y a des gens qui sont pas du tout dans l'humour, qui ont adoré. Il y a une attachée de presse que je connais assez bien, qui a quand même un certain âge, qui a adoré.
Il y a plein de meufs qui te kiffent. Quand je vois les stories que tu repartages, je vois souvent des prénoms de filles.
Mais moi, j'ai beaucoup de meufs qui me suivent.
Ouais.
J'ai beaucoup de meufs parce que j'ai un style de post qui est... qui intéresse les meufs, bizarrement. Et je me suis rendu compte que mes posts, où il y avait... Parce que moi, je mets beaucoup d'écriture, tu vois.
Oui, c'est ça.
Je suis très rarement... Hey, salut tout le monde. Non, je fais très rarement ça. Du coup, j'ai l'impression que les...
Les filles, elles lisent.
Les filles, elles lisent plus que les mecs.
Ouais.
C'est simple. Et c'est pour ça
c'est que les mecs sont feignants, ils ont besoin qu'un mec en facecam leur parle et machin, alors que les filles préfèrent lire.
Clairement,
c'est
sûr. Je ne veux pas donner de nom, mais il y a quand même quelqu'un qui est super connu, qui, à la place de lire mon livre, m'a demandé est-ce que tu peux me l'envoyer en livre audio.
Oh, je t'en supplie, est-ce que tu peux me dire son nom quand on aura terminé?
Ouais,
c'est une honte. C'est violent,
ce que tu dis.
Oh,
non,
demeurer.
Pas toi.
Oh, wow, c'est chaud.
Ah ouais, non, c'est dur. Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est dur.
Ah ouais.
Mais ça, on en revient toujours au même truc. Les mecs, il y a un laisser-aller chez les mecs.
Ouais.
Il y a un laisser-aller via... pourtant, moi, je suis pas dans le délire, tu sais, patriarcat, tout ça, je m'en bats les couilles. Parce que je suis du bon côté.
Ouais, c'est ça, vois, c'est facile pour toi, c'est naturel.
Mais je ne vis pas le truc.
Ouais.
Mais je vois nos lacunes, et je vois que nos lacunes, elles sont liées à notre mainmise sur la société. Tu vois, comme on dit, le confort tue, l'inconfort crée. C'est clairement ça. Les meufs, vous avez tellement de difficultés au quotidien que tout ce que vous le faites dans la difficulté. Enfin, les choses difficiles à faire, comme la lecture, parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est difficile de lire un bouquin, sans vouloir me foutre de leur gueule, hein. C'est juste qu'il y en a, ça les saoule, ils ont pas le temps, voilà. On est dans une société où t'as Netflix, donc tu t'en bats les couilles. Les meufs, vous prenez le temps, toutes les tâches un peu difficiles, vous prenez le temps de le faire. Un mec, il va vite abandonner parce qu'il est habitué à abandonner. Il est habitué, et même dans toutes les familles.
Il y a plus d'orgueil, les mecs supportent moins bien la frustration. C'est-à-dire que si un livre, tu rentres pas tout de suite dedans, ou si ça demande un peu plus d'effort.
Lâche l'affaire.
Et le mec lâche l'affaire, la meuf va continuer.
C'est pour ça que je te dis que le confort tue l'inconfort crée.
Ouais.
Et les nanas, le fait d'avoir toujours eu ces difficultés au quotidien depuis des millénaires, eh ben ça a forgé quelque chose, quoi, chez vous. Depuis, moi je le vois avec mes enfants. Moi, ma fille, elle est curieuse à mort.
Tu le dis dans tes stories, tu dis désolé Aaron, je préfère la fille.
Ah ouais, non, mais c'est trop drôle. Franchement, je l'aime bien, mon fils. Même pas, je l'aime bien. Non, je le kiffe, mais elle me fait gueulerie parce qu'elle est plus petite, elle veut tout faire toute seule. C'est pas faire ses lacets, elle s'en fout, et elle s'énerve si tu viens l'aider. Elle veut tout faire toute seule. Et l'autre, non, c'est différent. Et,
assister.
Et ouais, et c'est comme je le vois même avec ma. Moi, j'ai une petite sœur. Je vois ma petite sœur a toujours tout fait toute seule. Tu vas rien lui expliquer dans la vie, quoi. Elle est là, elle fait, et puis basta. Alors que nous, je perdais un t-shirt quand j'étais gosse. Il est où, maman, mon t-shirt?
Tu vois
directement, maman, aide-moi. Alors que les meufs... Après, voilà, ça peut être cliché. Forcément, quelqu'un qui va me dire, non, mais là, tu as des préjugés, tu genres quelqu'un. Ouais, d'accord, je suis un connard. C'est juste que je trouve qu'il y a des... je sais pas si c'est... On va pas dire dans l'ADN. J'ai lu en plus un bouquin récemment qui parlait d'hérédité,
ouais.
Mais sur les premières années, en fait, les premières années de ton cerveau, il travaille tellement que dans tes 3-4 premières années de vie, tu vas assimiler ce que tu vas devenir, et tu vas assimiler, en fait, tu vas, force d'écouter des choses, tu vas reproduire durant toute ta vie, tu vas reproduire des schémas que tu as observés quand tu étais un bébé. Donc, et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça relève pas de l'ADN. Ça relève pas du gène et du fait que tu sois automatiquement prédéfini. Enfin, tu te définis, enfin, t'es genré, t'es ci, tout ça. T'es pas ça du tout, c'est juste que tu observes quelqu'un qui te ressemble, qui a la même sexualité que toi, et du coup, tu fais à peu près pareil. Donc, je te donne la ref du bouquin.
Ah ouais, putain, donne la ref. Attends, maintenant, c'est la fin, c'est le petit questionnaire de Proust.
Allez, go.
Désolée, je t'ai retenu un peu plus longtemps que...
Non, il n'y a pas de souci, mais j'ai encore j'ai un podcast, non.
T'enchaînes, ouais. T'arrêtes pas, là, forcément.
Ouais, mais bon, pas de ouf. Très compliqué, vu qu'il n'y a pas de télé, tout ça.
Bah ouais.
Il me faut un beau truc. Là, je vais avoir Marie-Claire.
Génial, ouais.
Il me faut Télérama, tout. J'ai vu que t'avais Télérama.
Bah ouais, Rosana, je vais lui... il faut qu'elle lise ton bouquin.
Je sais pas s'ils l'ont envoyé.
Rosana DiVincenzo, envoie-lui.
On a parlé d'elle.
Bah, de toute façon, moi, je sors l'épisode lundi, là. Donc, elle va le voir, elle écoute le podcast. T'inquiète que moi, je vais te faire maxi story à mort et tout. J'espère qu'elle va le lire derrière.
Ou bien, tu sais quoi, je vais voir avec mon attaché de presse qu'elle
m'envoie. Ah ouais, direct qu'elle lui envoie.
Parce
bah ouais.
Je me souviens pas avoir signé pour Télérama. Parce que, tu sais, j'ai fait les services de presse. 70 bouquins à signer et tout. On a fait ça, merde.
Tu me le signes, moi, le mien,
ouais,
après.
Ouais,
de ouf. Bon, alors. Mourad. La qualité que tu préfères chez un homme ?
Le dépassement de fonction. J'aime quand... on va dire la fraternité. Mais j'aime... je suis amoureux de la bromance. Il n'y a pas plus puissant comme sentiment. Et je trouve que c'est plus puissant que l'amour. Homme-femme, ou même femme-femme, ou peu importe, tu vois. Parce que la bromance, il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de... C'est con, mais il y a un échange quand t'es en couple. Il y a un truc de « ouais, on est ensemble » et il y a une contrepartie sexuelle.
Mais de ouf, mais attends, ça c'est un truc que tu dis à un moment dans le livre. Tu dis « si jamais les femmes décident de monétiser le sexe, on est niqué. »
On est niqué.
Et j'y réfléchis, j'étais genre « mais ouais, mais après tout, pourquoi on devrait pas toutes le monétiser de base ?»
C'est ce que je me suis dit
en
une
fait,
fois.
Ça devrait pas être des prostituées, ça devrait être toutes les... Parce qu'en vrai, moi je trouve ça toujours inégal.
Les meufs devraient dire...
dire faire payer.
Faut faire payer.
Chaque rapport, il est payant,
voilà,
en fait.
C'est tout.
Mais c'est comme quand tu vas au resto, en fait... et même pas au resto, ça, c'est encore autre chose. Autant, en fait, moi, je pense que les femmes devraient pas se faire inviter au resto. Mm-hmm. On devrait faire moite-moite au resto. Par contre, après faire l'amour, tu me files un billet.
Ouais, c'est tout. Et ça se fait pas. Et du coup...
Sauf si j'ai joui. Et là, éventuellement...
Après, ça dépend.
Ah, voilà.
Ça dépend du pourboire, tu vois. Ça dépend de la note.
En fait, si le mec réussit à faire jouir sa meuf... il est exempté, mais en fait faut être hyper honnête, et si jamais, et ce qui est la plupart des cas, la meuf n'a pas d'orgasme, il n'y a pas de mais non c'était très bien, ça m'a fait plaisir, il y a un billet
et ça endiguerait la prostitution. Il y aurait
pas
plus
grave.
De prostitution.
Ah ouais, c'est
vu
clair.
Que tout le monde ferait en sorte que ça a un prix, il y aurait plus de
grave. Et en fait, il y aurait même plus de pension alimentaire après les divorces, parce qu'en fait, tout serait réglé au moment même du mariage. Pas la peine après d'établir, ah bon, mais combien je dois par mois ? Non, mais ça fait déjà 30 ans que je la paye.
Je la paye pour des rapports sexuels.
Et en fait, à vrai dire, c'est juste ça. C'est juste le rapport sexuel est payant.
Non, mais parce que je pars du principe que les mecs ont toujours envie de baiser.
Toujours. Alors
les
que
meufs,
nous, pas la
forcément. Flemme.
Résultat.
Il y a juste des moments.
Résultat,
vu que nous, on a besoin de vous.
Et ben, on fait payer
tout le temps.
Mais carrément. Et on devrait pas le faire genre pour vous faire plaisir. On devrait le faire parce que on a
échange de bons procédés.
Juste file-moi du blé. C'est plus simple en fait. Ne m'offre pas des cadeaux, des bijoux, des chaussures. Juste 100 balles. Et après peut-être un tarif en fonction des qualités de la meuf. C'est-à-dire que un bon coup, elle peut quand même.
Ça peut
charger jusqu'à 1000 balles le rapport.
Et une meuf toute pétée,
20 balles, elle se suce pas, mais c'est 20 balles.
Donc, tu vois, c'est un vrai concept.
Mais grave, ça changerait tout.
Je te dis, quand je l'ai mis dans le bouquin, je me suis dit, putain,
c'est un sketch à développer. Et ensuite, en plus, ce qui serait que les femmes seraient plus riches que les hommes.
Ouais.
Parce que si les femmes...
Il n'y aurait plus le problème des 30% de salaire.
Ah bah non, mais là, si t'imagines, si les femmes font payer pour chaque rapport... Bah, c'est nous qui avons le pouvoir d'achat.
Et puis c'est vous qui avez les 30% de salaire en plus.
C'est nous qui avons les bagnoles, c'est nous qui avons... Mmh. Tu sais, t'imagines dans les avions, dans ma première classe, il n'y a que les meufs.
Les mecs, c'est tellement des détraqués sexuels qui paieront. Dans tous les cas, ils paieront.
Ah, ils paieront, hein, il suffit de leur dire c'est payant. Et en plus, il n'y aura plus d'amertume, de filles qui pleurent, de « ah, il n'est pas resté dormir, il s'est cassé le matin ». Tant qu'il a payé, il a payé. En fait, une fois qu'il a payé, tu peux faire tout ce que tu veux, tu restes dormir, tu t'en vas, je m'en fous, t'as payé, tu vois.
Non, je trouve que c'est un super concept.
Et en fait, toutes les femmes devraient le faire. Comme ça, il n'y aurait plus de honte pour celles qui le
font. Et s'il y en a une qui n'accepte pas, on la rase.
Hands made tell, tu sais. On crée un corps de femmes qui... Non, mais c'est clair. Et les hommes qui sont vraiment exceptionnels, qui ont des talents dingues, eux, ils peuvent être payés aussi.
Ouais, bah oui.
Si genre vraiment...
Oui, mais après, il va y avoir de l'abus chez les mecs. il va y avoir des jaloux et ils vont essayer de tuer les mecs qui prennent de l'oseille parce qu'ils ont été pas lambins. Je les connais, les Khmers, à un moment donné, ça va partir en guerre fratricide.
Ouais, ouais, ouais.
Non, c'est que les meufs.
Non, c'est que les meufs qui font payer.
Comme ça, on met les choses au clair.
C'est que les meufs qui font payer les rapports sexuels et voilà, quoi. Avec un barème style convention collective du CNC, quoi, un tarif clair.
Ouais, avec, hein, avec une CGT, avec syndicaliste et tout.
Ouais, ouais, avec une déclaration sur l'impôt. Le mec peut dire ce qu'il a dépensé en frais sexuels.
De ouf, exonéré d'impôt si.
Exonéré.
Si, je sais pas, bah, si la meuf elle est vraiment. Ouais. Ouah, c'est quand même dur.
Très chiant.
Et
ouais,
il l'a fait quand même. Tu vois, ouais, ouais, tous ces trucs-là, quoi.
Ah ouais, grave.
J'y crois.
Moi aussi. La qualité que tu préfères chez une femme?
La douceur.
Le principal trait de ton caractère?
Oh putain, il y en a plein.
Et moi aussi, c'est la douceur que je préfère chez les femmes.
Ouais. Le principal trait de mon caractère, putain, ça dépend. Moi, je suis très bipolaire. Je peux être très calme, avoir un discours assez, on va dire, mesuré, nuancé et intelligent. Et des fois, je fais des trucs de gogol et je m'énerve pour rien. Je suis excité pour rien. Des fois, j'ai des montées de coke, on dirait.
Ah ouais?
Ah, j'ai des montées de coke.
D'énervement?
Non, c'est pas d'énervement, c'est... Oui, il y a un peu de ça, mais en fait, c'est une... je suis une boule d'énergie et je peux devenir vite énervé, en même temps...
Amer.
Tout me saoule et tout est de la merde.
Misanthrope, ouais.
Mais tu le vois, de toute façon, dans mes posts, des fois, comment je peux être violent pour des trucs qui sont pas forcément, qui demandent pas forcément ça. Je pense que, ouais, un peu...
Mais moi, c'est ce que j'aime vraiment bien chez toi, justement. Et je pense que c'est ton côté humain.
Ouais.
C'est, tu vois, quand on parlait au début des gens qui ont pas d'âme, c'est un peu ça, ouais, les gens qui restent toujours calmes.
Non, mais
vois,
moi je triche jamais. C'est ça le truc, c'est que je ne joue aucun personnage, je triche jamais. Je sais pas faire ça. Par exemple, faire du réseau, les trucs comme ça, je sais pas faire. J'ai toujours été comme je suis, et le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré, je connais, enfin voilà les Rostas, les gens dans le milieu, parce qu'on s'est accrochés, on est devenus potes et tout. Mais vraiment, j'ai pas de... J'ai toujours été honnête avec les gens, quoi. Je sais pas tricher, vraiment. Après, je veux pas te faire le cliché. Ouais, moi, je suis entière. Non, mais quand...
Est-ce que t'as des phases dépressives? T'en as eu avec le stand-up?
Pas dépressive, mais de doute total. Et j'essaie de faire croire à mes proches, à ma femme, que tout va bien. Ça, j'en ai. Et en moyenne, on a fait des stats avec ma femme, 5 jours par mois, je suis en dépression.
Bah t'as tes règles.
Je crois que c'est ça. C'est
juste que tu les as pas physiquement, mais 5 jours par mois, ça s'appelle
vraiment
des règles, Mourad.
Je me fais du mauvais sang, voilà.
Littéralement.
5 jours par mois, je suis vraiment, je suis bad de ouf. Il y a un truc qui va pas et je me dis, putain, tout ça c'est de la merde. De toute façon.
Si c'est 5 jours par mois, ça va, moi c'est 5 heures par jour.
Ah non, par contre, j'arrive à. Sinon, après, sortie de ces 5 jours-là, parce qu'ils sont de suite.
Ah oui, donc bah oui, comme des règles, quoi.
Ouais, c'est ça, je te jure, mais c'est bien en plus. Hein.
C'est drôle.
Et sortie de ces 5 jours-là, ça va, tout va bien.
Dis-le dans un sketch de ça, dis que t'as tes règles, ça serait marrant.
Putain, faudrait que j'en parle. Hein.
Ce serait tellement osé. Tu vois, au lieu qu'un set où les mecs se foutent de la gueule des meufs, disent en fait, moi je suis une meuf, j'ai mes règles, tu vois, je vais vous dire. Et que tu fasses tous les parallèles, quoi. Ça serait hyper original.
Ah, parce que c'est 5 jours les règles?
Ah, c'est 5 jours, ouais.
Ma femme, elle me dit que c'était 15 jours.
Non, t'imagines la meuf, elle veut juste pas qu'elle. Grave.
Non, mais ouais, c'est à peu près ça, hein. C'est vrai, parce que ça dure une période où.
Mais c'est possible de baiser quand t'as tes règles.
Je suis pas bien. Ouais, moi j'arrive. Hop.
Ah ouais?
Je sais pas, c'est psychologique, j'ai une barrière. Barrière. Bon.
Ok.
Ouais. Mais je pense que ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai un problème pendant 5 jours par mois.
Ah bah c'est, ou alors c'est les 5 jours où elle a ses règles, que toi tu fais la gueule.
Du coup,
c'est les 5 jours dans le mois où tu peux pas
t'as tes règles, vas-y, je te parle plus pendant une semaine. Mais totalement ouf.
T'imagines, tu l'enfermes dans une pièce. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
L'humour.
Ton principal défaut?
Je veux souvent avoir raison, mais 2-3 jours plus tard, je m'excuse.
Trop mignon. Ouais. Ton occupation préférée?
Lire les commentaires des fachos sur Twitter.
Ah ouais, t'as la foi. Moi, je peux pas. Je trouve ça trop vénère.
J'arrive pas à y croire, en fait.
Ah ouais, c'est...
Comme j'en côtoie pas,
ouais.
J'ai l'impression à chaque fois que c'est des vannes.
Ouais.
Et je préfère me dire ça. Mais je suis conscient que... je suis conscient que ça à un moment donné, je sais pas si ça va partir en couille, parce que je me dis, les gens à un moment donné, ils ont un petit truc de lucidité au dernier moment où tu dis, je suis vraiment en train de faire ça. Mmh. Je pense pas que ça va partir en couille. Je pense que les médias ajoutent ça, les politiques, ouais, et tout.
C'est news.
Ouais,
c'est moi.
Ils ont besoin de ça pour.
Mais heureusement, en fait, tu sais que t'étais l'un des rares à avoir posté quand il y a eu les accusations de viol contre, enfin d'agression sexuelle contre Zemmour, qui sont toujours là. Hein, il y en a plusieurs.
Il y en a encore d'autres.
Le mec, il est à la télé.
Personne n'en parle.
Personne n'en parle. Il y a aucun média qui relaie. Ça passe pas sur BFM.
Mais normalement, ça, tu sais,
aux États-Unis, t'es déjà cancel de ouf. Ça y est, on t'entend plus, quoi.
Je comprends pas.
Bah parce qu'il y a Bolloré.
Ouais, voilà. Après, lui, on a complètement compris qu'il est dans une quête de faire passer
le FN au second tour
l'année prochaine. Mais bon, franchement, j'arrive pas. J'arrive pas à y croire encore. J'en parle avec.
Tu sens un climat islamophobe en France ?
Non. Quand je coupe Internet. Tu vois ?
Ouais.
C'est ça que je dis souvent à ma femme, parce que ma femme, elle est voilée. Et du coup, elle a ce truc de. Elle sent quelque chose, elle sent une oppression, elle sent dans les regards tout ça, des choses que je pourrais jamais moi sentir. Et au début, je me disais, ah, t'es une parano, arrête de regarder Twitter, arrête de regarder ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est réel, tu vois, elle sent quelque chose, elle a peur de plus en plus, mais moi, je la sens pas, cette islamophobie, je la lis. Je la lis, je la vois à la télé. Mais en même temps, j'ai décidé de couper CNews, les chaînes d'infos. C'est interdit à la maison. Ça doit faire 2 ans, j'ai pu regarder une chaîne d'infos. Là, je suis en train de. Même des fois, il y a des débats, des trucs comme ça, je ne regarde plus. Parce qu'en fait, la télé, tu sais très bien que c'est. La télé, c'est binaire. C'est oui ou non. C'est deux personnes qui ne sont pas d'accord, qui vont parler. Et on sait très bien que politiquement, il n'y en aura aucun qui va à la fin dire « J'avoue, t'avais raison, frérot. » Donc ça ne sert à rien, la télé. Les débats. Du coup, je vois ça, mais je me suis un petit peu écarté de ça. Je reçois des trucs beaucoup sur Twitter parce que par rapport au métier et tout. Mais je ne le ressens pas parce qu'on habite en Ile-de-France. Je ne sais pas ce que ça donne ailleurs. J'ai des potes qui ont grandi en province, qui me disent, eux, ils ont vécu le vrai racisme.
Ouais.
Nous, ça va. Nous, franchement, en Ile-de-France, ça va. Je trouve que ça vit, on se côtoie assez bien. Après,
nous, dans notre milieu, c'est limite une mode, l'islamo-gauchisme. Moi, tu vois, tu vas dans le 20e, les meufs, c'est des petites françaises qui ont un t-shirt avec marqué Habibi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est.
C'est un style.
C'est un style.
Mais dans les faits.
Même moi, parfois, j'ai envie de me gifler, tu sais, quand je croise une femme voilée, que je lui fais un grand sourire en mode je suis une alliée. Et je suis arrête, ça fait pitié.
Mais de ouf, c'est comme si je suis avec vous. Et en fait, la meuf, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle m'en regarde comme ça ? C'est archi drôle, ça.
Ouais.
Mais oui, mais tu vois ce que je veux dire, je sais pas s'il y a vraiment. Il y a de l'islamophobie, on est tous conscients.
Mais pas dans nos milieux directement.
Je trouve qu'en Ile-de-France, on est quand même dans un. Comme aux États-Unis avec New York et Los Angeles.
Ouais, ouais.
Tu vois, c'est deux micro-climats, on va dire. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis.
Ouais, c'est clair.
Donc, je ne sais pas réellement. J'ai pas envie de me dire que ce qui se dit à la télé, c'est vrai. Tu vois, parce qu'ils sont vraiment en train de dire oui, que les gens vont vivre mal ensemble. Moi, je trouve que les gens vivent assez bien ensemble. Je trouve que quand tu éteins la télé, la radio et les médias en général, les gens, ils n'ont pas de problème, ils s'en foutent.
Ouais.
Mais on est en train de faire croire à. Et de deux côtés, j'en parle dans le bouquin parce qu'on fait croire aux blancs de souche, je ne sais même pas si ça se dit, mais bon, bref, les gens vont comprendre, que le problème c'est l'islam, et en même temps, on fait croire aux musulmans qu'il y a un climat en France islamophobe. Donc tu vois, chacun a besoin de l'autre.
Chacun nourrit,
nourrit les inquiétudes et les peurs de l'autre. Et c'est ce que je traite un peu de ça dans le bouquin parce que je trouve que c'est intéressant de remettre tout à plat et de se dire, oula, on va se calmer un peu. Les gens sont, par définition, ils sont gentils. Enfin, à part dans les années je sais pas quoi, avec Hitler et toutes ces conneries, mais maintenant, on est dans une société.
Et encore, c'est pas qu'ils étaient méchants, c'est qu'ils étaient lâches.
Ouais,
c'est qu'ils avaient peur et qu'ils pouvaient pas s'empêcher de dénoncer.
Ah oui, c'était dans un endoctrinement, il y avait tout
mais
un
ça,
truc.
Les gens le sont toujours, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est juste que les gens ont peur.
Les peurs, mais en fait, la peur, jamais tu verras quelqu'un prendre une bonne décision quand il a peur.
Ouais.
Jamais.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ton idée du bonheur.
Une théière. Peut-être une chicha, mais ça dépend. Parce que quand je fume la chicha deux jours de suite, après j'ai mal à la tête. Donc je veux dire, on va mettre la chicha de côté aujourd'hui. On va mettre une théière, la plage et mes gosses. Hein. Ah ouais, mes gosses. Bon, je dis pas ma femme parce que c'est elle qui est là. Enfin, elle sera tout le temps là, à moins qu'elle veuille me quitter. Mais je pense pas que ça se finira. Elle sera toujours à mes côtés. Mmh. Mais ouais, c'est ça.
Puis c'est trop beau en plus qu'elle t'ait. Enfin, c'est une trop belle histoire d'amour que genre elle t'ait fait confiance sur le fait de te lancer dans un truc hyper risqué, et puis que là d'un coup ça paye.
Au moment où on a des gosses, quoi, on commence à avoir, on a eu petit.
Putain, t'imagines l'acte de confiance, c'est ça l'amour en fait, l'acte de foi qu'elle a eu. Elle bosse dans
la décoration.
Ok.
Ouais, décoratrice.
Donc artistique aussi en fait.
Ouais,
vos enfants méga bobo quoi.
Ah bah ouais.
Ah ouais.
Pour l'instant ça mange encore du Lidl, mais bientôt ça va. Bientôt ça va commencer à bouffer des combats.
Du bio, c'est bon.
Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Là avec les chiffres du bouquin, je pense que bientôt on est sur du bio, c'est bon. Ouais. Donc.
Moi, je veux trop que t'aies le concours, mais c'est quand les concours pour
je crois
que tu
l'aies. C'est en septembre-octobre.
Je veux trop que tu l'aies.
Je suis pas sûr que. De toute façon, avec la rentrée littéraire et tout, je suis pas sûr. Faut qu'ils cartonnent cet été.
Ouais.
Faut espérer qu'ils cartonnent cet été et on va voir comment ils vont me positionner. Je suis pas sûr que je sois dans les clous. Je sais même pas c'est quoi les clous. Mais si je peux avoir un petit prix, je serais content.
Ah ouais.
Franchement, un petit prix.
Moi, t'inquiète, je vais l'offrir à tout mon entourage.
T'es un amour.
Quel serait ton plus grand malheur ?
Ah ouais, perdre mes gosses. Perdre un gosse. Je pense que...
Ça me fait toujours flipper quand les gens qui sont des gosses répondent à cette question autrement. Ils sont là, ne plus pouvoir m'accomplir artistiquement. Je suis là, ok.
Quel enculé.
À la fin d'une heure de discussion, okay. Ça serait pas plutôt perdre tes gosses.
Non, perdre un gosse, je crois que ça doit être incroyable.
Ah, je pense que c'est pire.
Comment se relever de ça ?
Impossible.
Parce que dans la tête des gens, c'est le papa, la maman qui part avant.
Bien sûr.
Et là, j'ai ma belle-mère qui ça va pas très bien parce que, bon, Covid, tout ça. Et ce que je disais à ma femme, c'est pour essayer de la rassurer, parce que c'est dur de rassurer quelqu'un avec quelqu'un qui est dans le coma et tout, quoi. Je disais, le seul point positif, c'est quand même que si elle doit partir, elle verra jamais un de ses enfants partir avant elle. Et là, ma femme, elle me dit... Tu crois vraiment que ça me rassure? J'ai dit, ah ouais, merde, c'était nul.
C'est hyper noir.
C'est hyper noir.
Mais c'est vrai.
Mais c'est tellement vrai.
C'est tellement vrai.
Je pense qu'il n'y a pas pire que pour un parent de perdre quelqu'un. Alors, ça doit être un peu de se tomber.
Ah ouais.
Je sais pas ce que je fais, moi. Franchement, je
sais pas. Fou, tu
te checkeras, tu changes de vie, je pense. T'essaies de... Ouais, ça doit être ouf. Mais bon. Feel good.
Et où aimerais-tu vivre? Ta ville idéale, est-ce que c'est Paris ou est-ce que dans un fantasme ça serait ailleurs?
Bali. Ah ouais, j'ai kiffé.
Ah ouais.
J'ai vraiment
tu
kiffé.
T'es drogué et tout là. Non.
Non même non. pas. Pourtant, les gens ils font que ça proposer des champignons là-bas, c'est incroyable. Mais non, j'ai vraiment kiffé Bali. Et puis sinon, plus proche, le Maroc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Maroc. En fait, j'aime beaucoup
j'ai trop hâte d'aller au Maroc. Tout le monde autour de moi est allé et j'y suis toujours pas allé.
C'est un délire.
Ouais.
Mais moi, j'allais tout le temps quand j'étais gosse. Et du coup, il y a un côté à l'arrache.
Ouais.
Tu vois, dès que j'arrive là-bas, je me mets en immersion. J'éteins mon téléphone. Je me mets short, claquette. Et des fois, c'est con, mais je vais me poser sur une terrasse.
Ouais.
Je prends une théière, une semaine, la totale, et je peux rester là quelques heures.
Non, mais j'ai trop envie. En plus, moi, j'ai de la famille là-bas. J'ai envie de... Ils ont un palais.
Où ça?
Je sais plus si c'est à Casa ou à Marrakech, mais en fait, la meuf de mon père...
Marrakech, généralement.
Je pense que c'est Marrakech. En fait, la meuf de mon père, en gros, sa sœur a épousé un mec là-bas qui pèse... Et qui est un peu artiste, mais en gros, tous ces parents. Enfin, genre, ils ont un palais, quoi.
Ah, magnifique.
Et avec des tonnes, tu t'y perds, quoi.
Ah, c'est magnifique. Et puis, esthétique, c'est beau.
Ouais.
C'est beau. Moi, je trouve que l'art marocain est vraiment. C'est beau, c'est travaillé. C'est... Et puis, ce que j'aime dans les pays du tiers-monde, vraiment, c'est le temps.
Mmh.
T'as le temps.
J'ai cru que t'allais dire Dominique Strauss-Kahn. Il est au Maroc, mais il est avec une Marocaine.
J'aime bien le temps, tu peux prendre du temps, c'est pas pressé. Alors qu'ici, même si t'as rien à faire pendant une semaine, t'as l'impression que t'as des trucs à faire, tu te forces à faire des choses. Faut que je fasse ça, faut que j'aille au resto, faut que j'aille sur une terrasse. Alors qu'au bled, moi j'aime bien prendre.
T'as un peu cette ambiance au Paname quand même, où les gens ils arrivent à 14h.
Et c'est ça que j'aime aussi avec le Paname.
Il y a un truc, tu comptes plus les heures, une fois que t'es posé, tu passes ta l'après-midi à papoter.
La maison,
très oriental, il y a un truc très tranquillou.
De ouf.
Et enfin, ton état d'esprit actuel.
Confiant, et du jour au lendemain, parce que le 2 juin, j'étais encore hystérique, j'étais en mode putain, vas-y, là, faut faire des trucs, la promo, putain, faut que je fasse quoi, là, faut que j'avance. Et le 3, les retours que j'ai eu, j'ai fait ok, je me suis dit putain, parce qu'il y a eu de l'attente avant la sortie.
Mais
il était fini en décembre. Après, il y a eu des corrections, des trucs, des conneries.
Ça allait vite, hein, s'il était fini en décembre pour le sortir en juin, ça allait vite.
Mais entre décembre et juin,
ouais, là, je sais.
J'ai pas eu grand-chose.
Bah, ouais,
entre
ouais.
les confinements, j'avais un plan sur un film, le film est tombé à l'eau. J'ai écrit une série avec un pote, la série compliquée de la vente, parce que c'est une série sur le stand-up, et il y a deux autres séries sur le stand-up, une sur OCS et une sur Netflix qui arrive. Du coup, les gens ils disent « ouais, c'est pas le moment ». Alors qu'en fait, c'est même pas sur stand-up, c'est juste.
Non, mais ils font chier. Enfin, c'est avec les Français pour être teubés.
C'est drôle.
Simple. Ça va, aux États-Unis, il y en a 5, enfin, il y en a 10 séries sur stand-up.
Si c'est drôle,
les
c'est
gars,
drôle.
Et soyez un peu au parfum de ce qui se passe dans le temps, c'est le moment de les faire, quoi. Français, genre 15 ans après, ils font une treatment, tu sais, le truc en analyse. Ah bah c'est génial, ouais. Genre, c'est sorti il y a 15 ans, le truc, quoi.
Il y a un problème en France.
Oh là là.
J'ai vraiment du mal, moi, avec. Avec les projets qui sont nés et qui vont au bout, quoi. Franchement, je me retrouve plus quand je regarde les programmes français, je me retrouve pas, quoi.
Non.
Et après, ils se plaignent que les gamins ils regardent tous The Office et d'autres séries. Bah, c'est en fait parce que
là-bas, vous êtes pas au niveau, quoi. Bah ouais.
La seule série drôle à mes yeux a pris des risques, c'était quand même le Jamel Comedy Inside. L'Inside avec Blanche,
Yacine
Bellousse. C'est pour moi, ça reste quand même le top. Et depuis, il n'y a rien eu qui m'a cassé en deux.
Moi, je trouve de temps en temps, il y a des beaux films de cinéma, genre d'art et d'essai, mais pas très drôles, quoi. Mais tu vois, j'avais beaucoup aimé le film de Julia Ducournau, Grave. Tu l'avais vu ou pas?
J'ai pas
vu. Incroyable. C'est un film d'horreur, c'est un film gore sur une nana dans une école vétérinaire et donc qui est un peu qui est très bizutée. Donc ça montre les bizutes dans ces écoles de véto. Et puis la meuf, elle. Donc les vétérinaires ils doivent piquer plein de bêtes, donc il y a une ambiance un peu glauque, et en fait elle commence elle-même à devenir cannibale, quoi. Enfin, il y a un truc sans vouloir trop spoiler,
j'en ai
avec Garance mariée, et c'est génial.
Mais sur les films comme ça, moi j'ai vu récemment The Father avec de Florian Zeller.
Ah, t'as pu le voir?
Ouais, je l'ai vu là, il y a 2-3 semaines, et j'ai vu la semaine dernière Des Hommes avec Depardieu.
Ok.
Et ben là, c'est du bon film. Tu vois, mais moi, c'est plus sur les comédies.
Ouais, sur les comédies,
sur
c'est
les
la ramasse.
Comédies, en France,
sur les comédies, en fait, on reste dans la beaufitude. Ouais. Ils n'arrivent pas à faire de la tragicomédie, quoi, du dramélie.
Les seuls qui ont un peu réussi un peu là récemment, c'est Tout Simplement Noir.
Ouais, très fort, j'ai adoré.
Sinon,
qu'est-ce que j'ai rigolé.
Sinon, sur l'humour qui va
et toucher, encore, Tout Simplement Noir, c'est du long métrage. C'est-à-dire qu'en fait, sur la série, ils arrivent, c'est plus dur, ils ont du mal à passer le.
Il y a eu Family Business, qui est assez drôle, avec Jonathan Cohen. Mais après, c'est Jonathan Cohen.
Oui, voilà, c'est lui, à lui tout seul, tu lui mets n'importe quoi, dans tous les cas, il sera. Ouais.
Mais sinon, je n'arrive pas à. Ouais, sur tout ce qui se passe actuellement en France, je suis un peu largué, quoi.
Ouais, le process aussi, il est assez déprimant. Mais t'arrêtes pas, en tout cas. C'est trop bien, bah merci. Est-ce que t'as pas un mantra, mais genre une expression ou une phrase, genre une expression genre con, mais que t'aimes bien
Oh putain. Non, j'ai.
Non.
Attends, putain, tu me dis ça comme ça. Là.
Ouais, ouais.
Non, j'ai un pas de mantra, on va dire que.
Genre, ou une phrase que t'aimes bien, un truc que t'as entendu dire, même un truc tout pété, tout, un peu cheesy à la Oprah.
Non, franchement, je pars juste du principe que tout est faisable, sans vouloir faire
Kevin Hart.
Ouais.
Moi j'aime bien.
Je pense que il faut tu veux savoir si t'es bon dans un truc, faut le faire. Après, si ça fait pas, parce que bon, tu peux. Enfin, il y a des difficultés. Tu sais, le truc de donne-toi à fond, faut pas qu'il y ait. Mets-toi juste un plan A, parce que si t'as un plan B, tu vas te focaliser sur un plan B. Ferme ta gueule. Des fois, tu fais tout pour réussir quelque chose et t'y arrives pas. Et bah, c'est la vie. Et puis, comme je dis à la fin du film, Ali, c'est la vie. Hein. Tu sais, après. Enfin, à la fin du bouquin, quoi. Putain, je me suis balancé.
Et c'est un film qui rentre en production. Bon, trop bien, merci infiniment Mourad. Et je vais pouvoir monter tout ça. Et c'était génial. Merci beaucoup. Et voilà à quoi vous pouvez reconnaître mon côté femelle amoureuse soumise, c'est que j'ai pas coupé un mot de Mourad Winter dans cet épisode. Aussi, nos paroles se chevauchaient pas mal. Nos paroles, je sais que tu es mariée Mourad. Mais résultat, j'aurais bien aimé couper le moment où moi, je dis « Les Marocains, ils préfèrent la fête aux Algériens, non ?» Mais ensuite, ça aurait cassé la fluidité. Donc j'assume, ce côté Sylvie, 42 ans, aime le Club Med et la frittata. Bon, maintenant, vous n'avez qu'une chose à faire, achetez le bouquin de Mourad Winter. Et Mourad, si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, on verra. Je vais voir si je parle dans le vide ou s'il m'écoute. Mourad, merci encore. J'ai oublié de te demander de me dédicacer le livre, donc il faut qu'on se recroise. Tu m'as dit en partant que tu étais intéressé pour venir voir mon spectacle, donc je peux te mettre une, deux invitations quand tu veux. Et tu me signeras le livre à ce moment-là. Pourquoi, putain, je parlais et j'ai eu un glaire qui est remonté. Non, c'est la troisième fois que je réenregistre cette outro parce que j'avais des soucis d'articulation, je laisse. Bon, désolé. Une espèce de relan de sperme d'il y a 6 mois. Parce que ça fait 6 mois que j'ai pas baisé. Bon, alors attendez. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, pardon, j'étais en train de dire que je voulais t'inviter à mon spectacle, Mourad, et te proposer que tu me signes le livre à ce moment-là. C'est bizarre, là, ce truc que j'ai dans la bouche. Bref, Mourad, j'aimerais qu'on devienne amis et qu'on travaille ensemble. Et en fait, j'aimerais qu'on révolutionne le cinéma français ensemble. Ou une série, voilà. Mais si t'as le temps, si t'entends ce message, parce que j'oserais pas le dire ailleurs, en fait, j'oserais pas... Déjà, j'ai hésité à te proposer de faire un IG live pour parler sur Instagram, et puis j'ai pas osé, je suis timide. Mais je t'apprécie beaucoup, et j'espère qu'on va se recroiser. Et surtout, j'aimerais vraiment qu'on collabore sur un projet de comédie. Voilà, je m'adresse à nouveau à vous, les auditeurs, auditrices, mes chatons, pour vous proposer de vous inscrire à ma newsletter. J'en ai fait partir une première et j'ai eu de bons retours. Je ferai des stories sur Insta pour ceux qui sont chauds et dont j'ai pas le mail, comme ça vous pourrez vous inscrire. Et je pensais utiliser la newsletter pour rebondir quelques jours après la sortie de l'épisode sur les thèmes abordés en intro ou outro de l'épisode. Mais finalement, dans la première newsletter, j'ai répondu aux questions d'une jeune humoriste avant sa première scène. Et la newsletter, c'est peut-être un bon lieu pour répondre en profondeur à vos questions. Je le fais déjà un peu en story sur Insta, mais là, c'est un autre lien, c'est plus intime, un peu plus deep. Ça vous prépare à la lecture de mon livre. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous remercie d'être là. Bisous. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.